ton goût de chiotte, ton mauvais goût, il y a que toi qui l'as. Certain. Et c'est ça qui te rend le plus unique au monde. Et ce son de guitare, moi, je l'ai toujours aimé. Et tout le monde me disait genre, putain, il est dégueulasse. Je me suis dit, voilà, vous allez en avoir encore plus maintenant.
Tempo, c'est le podcast des passionnés de musique, ça va Daz?
Ouais, ça va tranquille, et toi Salman?
Bah écoute bien, épisode 99!
Putain,
ça y est. Tu te rends compte, c'est presque la centième!
Et la centième, eh, gros changement hein, mais...
Et centième, on vous prépare un petit truc.
Mais vraiment petit par contre.
Ouais?
Ouais.
Petit ou gros? Ouais, changement.
Enfin, on dit petit comme ça, ils s'attendent à pas grand chose, et bah, on les éclate.
Non, c'est pas... On reçoit pas non plus Prince revenu d'entre les morts,
ouais, tu vois. J'aurais bien aimé,
Pourquoi pas, on va y aller tranquille.
Ah, si on était Thierry Ardisson, non. Mais lui aussi, on pourrait faire une émission en IA avec Thierry Ardisson et Prince.
En vrai, DLT, l'émission qui réveille les morts. Franchement, ça serait stylé un peu.
Les morts.
On fait intervenir.
M-O-R-T-S. Hein.
Oui, bien sûr.
Non, parce que M-A-U-R-E-S, ça marche aussi.
Cette introduction.
Oui.
Démarre très mal.
On va passer directement au vif du sujet pour cette 99e émission.
Absolument.
Et émission de la maturité, j'ai envie de dire.
Oui, et des invités de la maturité aussi. Oui. Pour ça, je sais pas. Ils vont nous dire, puisqu'on est avec Max Baby, et on est aussi avec Clément Savoie. Clément de Kids Return, c'est ton groupe. Ça
enchanté,
va les gars,
bienvenue.
Pareil, bienvenue.
Merci.
En chair et en os.
Je suis très content parce que, Daz, on va parler de musique pop, de musique rock, de producteurs, interprètes talentueux. On a Clément qui est la moitié. Alors, on n'a pas Adrien qui est avec nous aujourd'hui.
Parce qu'en fait, le truc s'est fait la suite, mais il est avec nous dans le cœur.
Absolument.
Il avait trop envie de le faire en plus, parce qu'on voit un peu ce que c'est et c'est très cool. Mais là, il pouvait pas malheureusement tout annuler, tout repousser.
On le salue.
Mais je suis là, on a la même parole. On pense les mêmes choses. On a fusionné. Ouais.
Incroyable. Oui, parce qu'avec Adrien, donc, vous formez le duo Kids Return. On vous découvre en 2021, c'est ça hein.
C'est
vous
ça,
formez,
ouais.
Puis vous sortez vos premiers morceaux. Dès le début, ça marche plutôt pas trop mal.
Ça dépend ce que t'appelles marcher.
En tout cas,
les gens disent ça. Mais
très
en tout cas,
vous trouvez des auditeurs.
Voilà. Il y a un truc qui s'est passé en tout cas.
Ouais.
Des fois, il y a des trucs, tu fais des trucs, ça se passe pas.
Ouais.
Et là, ça s'est passé parce qu'on a direct fait des concerts.
Ouais.
Et en plus, c'était pas du tout ce qu'on comptait faire à la base. Nous, on voulait à la base faire des BO. Enfin, on était dans un autre groupe avant. On s'est chauffé pendant le Covid à créer un truc à deux. Et en fait, il s'est chauffé à chanter. Je pense que là, il y a la pop un peu qui nous a aussi rattrapé. Enfin, tu vois, ce truc un peu, les groupes qu'on kiffait et tout. Et en fait, direct, on a sorti un morceau, on a eu des concerts. Et l'histoire s'est écrite petit à petit comme ça, quoi.
Avec un an après un premier album, Forever Melodies,
ouais,
en 2022. Et là, en avril dernier, un deuxième album qui s'appelle 1997. Qui est l'année de votre naissance.
Exactement, on pourra plus mentir comme ça.
Et qui est en plus un tournant. Alors un tournant, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a une nouvelle direction esthétique, j'ai envie de dire, puisque on retrouve des influences rock beaucoup plus assumées, toujours avec votre style pop, avec plein d'influences hyper intéressantes dont on parlera. Mais vraiment cette idée, ouais, de revenir à un son peut-être un peu plus à guitare déjà.
Ouais, exactement. En fait, c'est le son de quand on s'est rencontré avec Adrien, parce qu'on s'est rencontré quand on avait 13 ans au collège. Et on écoutait en fait beaucoup de rock à ce moment-là, on avait des groupes de rock et c'était en fait, je vois pas ça comme un changement mais plus comme une évolution et une suite logique à ce qu'on devait faire depuis le début. On a eu besoin de faire un premier album plus dans la mélodie dans les musiques de films et dans la mélodie un peu, la musique un peu des années 60 californienne qui est un truc qu'on aime beaucoup aussi et en même temps aussi les musiques de films italiennes et françaises qu'on a beaucoup écoutées et japonaises. Et après on a eu besoin de retourner un truc plus peut-être concret et... Parce qu'on a découvert la tournée, on n'avait jamais tourné en fait avant.
Ouais.
Et donc on a eu besoin de revenir à un truc plus concret aussi. En fait, nous à la base, on vient de quand même du rock et de cette musique-là qui nous a fait devenir amis en fait. On s'est rencontrés en s'échangeant des disques, des trucs, en commençant à faire de la batterie, de la guitare. Et donc en fait, c'est une sorte de mixte un peu. Enfin, on a eu besoin d'aller vraiment dans ça, mais les deux sont dans nos têtes et on le voit pas vraiment comme une sorte de radicalité quoi.
Mmh. Max, toi, tu es aussi producteur, interprète, tu chantes, t'as ton projet solo, tu fais des trucs aussi à côté avec d'autres gens. Je dis une bêtise ou toi vraiment en solo, sous ton nom Max Baby, on te découvre il y a à peu près un an en fait,
ouais,
avec ton premier morceau, hardcore le premier morceau.
Ouais.
Ouais.
Tout à fait, il y a un an.
T'enchaînes avec un EP derrière.
J'enchaîne avec un EP derrière, ouais, on a sorti quelques singles, peut-être deux avant l'EP. Et ouais, c'est des morceaux que j'avais depuis un moment quand même que je voulais sortir.
Ouais.
Et je me suis dit, bah, allez, c'est le moment.
Mais c'est pas le début de la musique pour toi, en fait.
Non.
Ouais, hein.
Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai commencé la musique très très jeune, genre à 6 ans, j'ai commencé à jouer de la batterie. Après, j'ai eu des groupes plus ou moins douteux, jusqu'à un autre, qui était cool, que j'ai arrêté pour des raisons diverses et variées. Mais oui, après, je me suis focalisé sur la production, en effet. Et mais en fait, je me suis toujours senti artiste avant d'être producteur. C'est vrai que peut-être que le peu de gens qui me connaissent me connaissaient avant en tant que producteur, mais j'ai toujours été artiste avant d'être producteur. Et là, c'était le moment de retourner le truc.
C'est un peu dont on parlera. En plus, c'est hyper intéressant parce que ce soit Kids Return ou que ce soit Max Baby, y a un mélange qui n'est pas le même d'ailleurs entre plein d'influences, dont un truc, moi, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a une espèce de revival un peu 2000 et fin 90, un truc à la fois Britpop, à la fois un truc, tu vois, c'est des Strokes, des Arctic Monkeys, etc., qui revient à fond, je trouve. Peut-être qu'on va en parler avec vous. Et en même temps, c'est hyper moderne ce que vous pouvez proposer, y a plein de mélanges, etc. Donc Daz, ce qu'on peut faire, je sais que c'est un peu moins ton univers, toi.
Ouais.
Pour le découvrir, comme nos auditeurs, on peut écouter déjà un morceau de chacun.
Mais bien sûr, moi je vais être le naïf. Dans
absolument. Et on pourrait commencer avec Max, par exemple. On écoute juste ton dernier single, Fit, qui vient de sortir.
Super morceau.
En vrai, il est trop bien ce morceau,
j'ai écouté,
je suis d'accord.
Aussi.
Merci.
Absolument. Comme ça donnerait une petite idée de ce que tu fais. Et puis après, on s'écoute du Kids Return aussi.
Ouais, c'est parti. Super morceau aussi.
Max Baby, Fit. You find it out, but I don't. It takes a while in my own world. I chose no limitations. Guess I don't want to be defined. Beneath the door, don't you two wanna find out? Hold your breath, cause I can't believe it. 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 How could it get us so high? I can't believe it. Clément, tu disais que t'aimes bien ce morceau. Vous vous connaissez un peu avec Max?
Bah ouais, en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai.
Il y a, je dirais, un an, quoi.
Je pourrais même préciser le moment où on a band. C'était il y a un peu moins d'un an. C'était le soir de mon anniversaire. On a fini en after chez WAM.
C'est vrai qu'on c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. On s'est fait une énorme teuf. Et ça a fini très tard.
C'est pas la première fois qu'on s'est rencontrés.
On s'est rencontrés vraiment, quoi.
Ouais, voilà.
Et je savais, moi, j'avais entendu parler de toi parce que t'avais produit un morceau pour des potes à nous qui s'appelle Please.
Ouais.
Et vous avez aussi bossé pour Please.
Et nous, on a fait ils avaient un morceau et on avait trouvé une mélodie ensemble et tout. Ouais, grave, c'est des super potes à nous. Et
Max, t'as produit le dernier EP de
Dernier
de
EP, ça, ouais.
Qui est un super EP. Et c'était comme ça que moi j'en avais entendu parler. Et en fait, maintenant, on a le même tourneur. Donc on est amené à se voir souvent en fait en festival. On va faire pas mal de concerts ensemble là et tout. Et c'est trop cool.
Trop bien.
C'est trop bien, ouais.
Bon, on va s'écouter aussi Kids Return. Mais est-ce que je propose, tu sais ce qu'on pourrait faire, c'est genre on peut s'écouter 30 secondes d'un morceau du premier album et 30 secondes d'un morceau du second album. Et tu vois, on voit comme ça un peu l'évolution pour marquer un peu ce truc rock.
C'est quoi et quoi les morceaux?
En vrai, c'est diversifier vos albums. Il n'y a pas que des sons hyper rock. Mais tu vois, je pensais par exemple qu'on pouvait commencer avec, je sais pas, en tout cas après se faire First Choice. Parce que justement, tu vois, tout de suite, on sent ses guitares, tu vois, direct. C'est l'ouverture de votre dernier album.
Ouais.
Et sur le premier album, en vrai, Mélodie, c'est celui certainement qui a le.
Tu peux l'écouter,
YouTube.
Moi, j'en peux plus.
C'est vrai, merde. Non, attends, vas-y, on met autre chose.
Non, mais je l'adore, que c'est celui qu'on fait tout le temps en concert. Mais en vrai, j'adore ce morceau.
Attends.
Tu peux écouter Orange Mountain, je l'aime bien aussi. C'est l'ouverture comme ça, t'écoutes les deux ouvertures.
Eh bah, écoute, on fait comme ça. Orange Mountains. Donc, c'était sur le premier album, qui est 2022.
Ouais.
Allez, on s'écoute ça. Kids Return. ça donne une petite idée de ce que vous faisiez.
C'est très chouette, non?
C'est bien, c'est beau, hein. En vrai, c'est hyper bien. Ça me fait penser un poil, tu sais, à... merde, comment il s'appelle cet Américain qui s'est avéré malheureusement avoir des idées un peu bizarres. Tu sais, il était à l'assaut, tu sais, du Capitole.
Ariel Pink.
Ariel Pink, que j'adore en plus.
Bah, la musique, c'est super. Ouais. Lui, je crois que c'est moins bien, mais.
Absolument. C'est un peu le problème, mais qui fait de la super musique. Et je trouve qu'il y a des points communs pour ce que vous pouvez faire.
C'est moins bien pour qui? Moins bien pour les gauchistes.
Ouais. Non, en vrai, il est quand même vraiment limite Ariel Pink, il est vraiment chelou.
Ça va, ça va, ça suffit les woke là, maintenant.
On arrête avec ça.
Attends.
Bon, en tout cas, voilà, il y avait cette idée là de pop avec Orange Mountain et ce truc plus rock qu'on retrouve clairement sur 1997, votre dernier album, avec l'ouverture First Choice, ça donne ça. Son album.
Ouais, c'est vraiment que c'est vrai que là, c'est vraiment pas les mêmes ouvertures, quoi.
Ouais.
Avec du recul.
Ouais.
Mais ouais, bah, je kiffe les deux. C'est ça qui est important, je pense.
C'est... Toi, par exemple, Daz, quand on écoute ces morceaux, ça t'évoque justement le côté rock ou tu penses surtout à la pop ou est-ce que... Comment tu vois un peu, toi, au niveau des esthétiques, tu vois des cultures un peu.
Ouais, bah, il y a. Enfin, pour moi, après, encore une fois. Parce que les gens vont dire, ouais, le gars à la casquette, il dit n'importe quoi.
Il y a deux casquettes.
Il y a deux casquettes.
C'est bon, on est bien, c'est pour ça.
Ouais, bah, il y a une vibe très 60s, 70s, en fait. Ouais. Dans
chez Kids Return, ça, c'est clair.
Ouais.
Chez Max, il y a ce truc aussi.
Non, le morceau qu'on a écouté.
Non, moins.
Au niveau du grain du son, etc., c'est plus moderne.
Ouais, je suis d'accord.
Dans l'approche, tu vois.
Justement, vous, est-ce que vous voyez des points communs entre vos musiques?
Bah, je pense que il y en a dans le sens où on est des Français et qu'on chante en anglais. Donc déjà, c'est un truc. Je pense qu'on a forcément des rêves communes aussi.
Ouais, ouais, c'est ça. Et je après, pense qu'on vient du même héritage. Ouais.
Bien sûr. Et après, ce qui est cool, c'est que en même temps, c'est pas la même chose. Et ça qui est trop bien, tu vois. Mais c'est vrai que Max, il a un truc. Moi, comment je le vois plus moderne dans le son, même
dans
en tout cas dans ce qu'on peut appeler moderne, parce que je trouve que c'est toujours très compliqué ce truc de modernité, parce que
oui,
en fait il y a des trucs que je peux trouver modernes et en fait ils le font vraiment comme d'autres le faisaient avant, ou en fait ça peut être un mix des deux, mais en tout cas il y a un truc que je trouve super dans ce que fait Max et qui apporte un truc nouveau à ce qu'on a aujourd'hui en France, et c'est ça qui compte, en fait, tu vois, je trouve. Donc je trouve qu'on a un truc différent. Et en même temps, moi, tu vois, je suis content de savoir qu'on fait des concerts ensemble, qu'on fait partie un peu d'une même scène, quoi.
Ça me touche.
toi, Max, tu vois des points communs entre ta musique et celle des Kids?
Ouais, carrément. Je vois déjà qu'on a tous les deux, tous les trois.
La même coupe.
Tous les trois, la même coupe. Tous les trois, la même coupe. Et on a l'amour du son.
Ouais.
Je sens qu'on est des...
Grave.
Vraiment des obsédés de comment les choses sonnent selon les époques. On parlait tout à l'heure en off de son de snare, etc. Donc tout doit être on point par rapport à ce qu'on veut dire par rapport à tel morceau. Là, le premier morceau qu'on a écouté est plus 60s, 70s. Ouais. Ouais, je l'ai écouté direct, j'étais genre... Oh là là, les tomes, la stéréo des tomes,
ouais,
le truc est parfait, les sons des guitares et tout, genre, oh, c'est vraiment nickel. Et là, je sens qu'il y a un truc plus 80s, ça me rappelle un peu, tu sais, la période late Lou Reed.
Ouais, bah, ce morceau, mais c'est vraiment le seul de l'album comme ça, ouais. Et on l'a commencé l'album comme ça. Le reste de l'album, il est un peu moins. C'était plus les gens qui écoutaient, ils disaient plus Primal Scream, Scream Adelica, etc. Ouais. Et c'était plus le côté où il y a du rock un peu aussi, mais il y a un peu des trucs programmés, des boîtes à rythme, des synthés. Et lui, il est plus frontal 80s. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on a voulu commencer le disque comme ça. Mais oui, c'est vrai.
Puis il y a une ref aussi qui doit souvent revenir quand on parle de votre musique, celle de MGMT.
Ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Surtout quand on joue en concert, en fait, on nous dit souvent ça après. Ouais. Parce que la voix d'Adrie, elle peut, ça, peut
absolument
un peu être comme la voix d'Andrew.
Bah genre, attends, je crois que c'est sur le, c'est sur quel morceau
en fait les gens disent tout, mais je pense c'est comme toi. Il y a tout le temps des rêves qui ressortent. Il y a celle que, il y a celle que tu redis, celle que tu redis pas.
Mais c'est comme Tame Impala au début, tout le monde comparait le premier album de Tame Impala à MGMT et maintenant, enfin.
Toi, on te dit quoi?
Moi, on me dit, moi, on me dit les Strokes, on me dit.
Mais ça, c'est les trucs qui te font kiffer.
Ben, en fait, je vois ce que les gens veulent dire, mais je me défie des gens de trouver un morceau qui ressemble aux Strokes.
Non, mais c'est plus dans le, c'est plus dans la voix.
C'est, ouais.
Pourquoi pas? Ouais. Non, tu sais ce que sur Feat. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à un truc, c'est à Nine Inch Nails.
Ouais, ben, j'allais dire.
Ça, oui.
Ouais, sur.
On t'a dit Maggie un peu aussi ou pas?
Ah non. Enfin, non. Oui, on me l'a dit ça récemment, mais pareil, je mets au défi quelqu'un de.
Non, mais peut-être le côté guitare, dans le son guitare un peu.
Ouais, mais parce que je joue de la guitare. Mais, ouais, genre, voilà. Je joue de la guitare et en fait, je joue pas de la guitare en mode je fais des petits accords. Ok, j'ai quelques skills de guitare et je m'en sers.
Ouais,
et c'est vrai que c'est un truc
trouvé,
qui s'est.
Attends, McGee,
en fait, non. C'est un truc qui est revenu avec lui, en fait, le côté un peu, tu sais. Je mets des gros guillemets, hein, mais guitar hero, ouais. Tu vois. Ça s'était complètement perdu, c'était limite cringe. Et maintenant,
avec le retour
de Maggie, maintenant c'est cool. Et maintenant, moi, je fais des solos de guitare à quasi tous les morceaux. Et on dit, ah ouais, Maggie, tu joues de la guitare. Enfin, écoutez mon son de guitare. Lui, il a une guitare baritone qui est hyper grave et tout. Moi, c'est l'inverse. C'est genre, c'est presque un son industriel hyper aigu et tout. Donc, enfin. Je vois pas le rapprochement, à part encore une fois la coupe de cheveux.
c'est un truc, le fait que sans cesse on a besoin d'avoir des références, que ce soit les médias, que ce soit les auditeurs, etc. C'est un truc qui
peut vous peser un peu.
En tout cas, ça existe, ouais. C'est sûr que c'est là. Hein.
Tout le temps.
Tant que t'as pas fait ton trou à toi et qu'il est assez profond, bah, je pense que c'est.
Après, il y a pire comme Inspi ou comme.
Bah non, mais c'est clair. Quoi.
Nous, on nous dit des trucs gentils. Hein. Franchement, MGMT, moi, je prends. On dit Oasis aussi, parce qu'il y a une voix un peu nazi-hard comme ça, Adrie. Et R aussi, des fois, on nous a dit ça, mais plus pour le premier disque.
Regarde, c'est que des bonnes refs.
Ça, c'est, tu vois, quand on me dit ça, ça va.
Phoenix aussi qui revient parfois.
Ouais, Phoenix aussi. Un peu, ouais.
Et je précise parce que tu dis Adrie, donc ton collègue de ouais. Kids Return, qui lui est vraiment au chant. Toi, tu backs souvent les chants, t'es souvent dans les chœurs.
Moi, je fais des chœurs et je me suis mis à en faire de plus en plus parce que j'ai commencé à kiffer le faire.
Et t'as le côté un peu plus prod peut-être aussi qu'Adrie.
Ouais. Même beaucoup plus. Lui, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui va composer des. Même des fois avant de monter sur scène, quand on descend dans l'ascenseur, arrêtez, il dictaphone. Il sort la guitare, il a vraiment ce truc de trouver des chansons tout le temps. Moi, j'ai moins ça. Sur ce disque, ça nous est arrivé. Des fois, c'est moi qui composais et lui qui m'a apporté le recul aussi. Mais c'est vrai que globalement, c'est lui qui va trouver le début. Et ensuite, moi, je vais mettre un peu en forme tout et peut-être trouver après le refrain qui va avec ou vice-versa. Mais il y a un truc où il apporte quand même souvent l'impulse. De la grille et tout, quoi.
C'est marrant cette division des tâches parce qu'on voit vraiment qu'il y a plein de. Enfin, la dynamique de groupe, alors là c'est un duo, mais elle peut être plus large aussi. Et la dynamique de l'artiste solo, elle est vraiment.
Mais moi je pourrais pas par exemple.
Moi c'est Lucien qui compose, il est là.
C'est un truc qui vient un peu naturellement, ça, ou c'est quoi? C'est une question de caractère? C'est une question
de. Je pense quand même que c'est une question de caractère. Parce que moi par exemple, je serais incapable de faire un projet solo. Vraiment.
Tu dis ça, mais.
Après, je pense que c'est aussi une question de vie. C'est genre une rencontre, tu vois. À un moment, tu rencontres quelqu'un. T'as envie de le faire, et sinon, peut-être toi, tu disais que t'as déjà eu des groupes. Peut-être que quand t'as déjà eu des groupes et que t'as une expérience aussi, à un moment, tu dis, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire ce qui se passe dans
ça
ma tête.
Ça l'a dégoûté,
alors,
Max.
Non, pour être honnête, du coup. C'est horrible. Mais quand j'avais des groupes, je faisais un peu tout seul aussi. Les gars jouaient, on enregistrait les basses batteries par les mecs du groupe, mais c'était, voilà, je faisais toutes mes démos tout seul. Dans ma chambre, et après on produisait les trucs. Donc finalement, j'ai un peu toujours été habitué
à tout seul depuis le départ,
avoir un projet solo. En fait, je voulais un groupe parce que c'était cool d'avoir un groupe. Et dès mes 13 ans, en fait, j'avais une espèce de pédale multi-effet avec lesquelles il livrait un CD de Cubase.
Okay.
Et donc j'avais installé Cubase, et je me suis dit, wow, c'est ouf, je peux m'enregistrer tout seul. Et en fait, j'ai commencé à m'enregistrer avec un micro pourri que je branchais dans le multi-effet de guitare pour aller dans Cubase, parce que c'était ma carte son, parce que c'était une carte son. Et j'ai commencé à faire du multitrack comme ça, et à la fin de la journée, je me dis, waouh, mais attends, j'ai enregistré un morceau, ça c'est mon morceau, enfin, c'était fou, tu vois. Et j'avais aucune idée de la prod, et j'avais aucune idée que j'étais en train de faire ça, surtout. Et donc c'est comme ça qu'en fait j'envoyais mes intentions de morceaux au band, et en fait pendant des années, c'était comme ça, puis là, je me retrouve solo, quoi.
C'est vrai qu'il faut, quand t'es en groupe, il y a l'histoire de la dynamique aussi et de l'envie. Et tu peux avoir aussi des gens qui sont pas alignés un qui prend ça comme un hobby et l'autre qui est vraiment investi, motivé, tu vois. Et donc ça peut être frustrant, je pense.
Oui, donc en fait, c'est un truc de
tire le truc
de personnalité en fait.
Ouais, c'est
en
ça.
Fait, c'est
ouais.
ça quoi. Moi, je pourrais pas.
Si tu trouves quelqu'un avec qui tu t'entends bien, ça doit être magique. T'es le mec qui en rêve, tu vois.
Que ouais, par contre, ça peut changer aussi au fur et à mesure avec la maturité, l'évolution des goûts musicaux, etc. Peut-être que.
Bien sûr. Moi, on a cette phobie-là tous les deux avec Adri, parce que ça change dans le sens où, vu qu'on s'est rencontrés et qu'on avait 13 ans et qu'on a direct été un peu meilleurs potes, on a chacun eu des groupes. Après, il est venu dans mon groupe que j'avais avant, après, etc. etc. Et en fait, il y a ce truc où on voit ça comme si c'était aussi important de préserver l'amitié qu'on a que juste la musique en soi, même si on est tous les deux un peu des malades, il faut que ce soit comme on l'a en tête, et lui autant que moi, sur des trucs peut-être un peu différents, mais en tout cas vraiment. Et lui en plus, c'est plus un artiste complet dans le sens où il a plus ce truc aussi de visuel que moi j'ai un peu moins, parce qu'on s'entoure, on bosse avec un gars qui s'appelle Tarajay, qui est vraiment notre meilleur pote, et Adri en fait il est vachement là à tous ces trucs de clips, de machin, etc. Un truc plus global en fait, et donc il y a ce truc là, mais tous les matins on se prend 30 minutes pour kiffer en mode pote avant d'y aller vraiment, même quand c'est le jus quoi.
Vous vous engueulez un peu en studio quoi?
En vrai, en studio jamais, alors ça c'est sûr, et après c'est pas qu'on s'engueule, mais c'est devenu mon frère, donc des fois il y a juste ce truc quand on est fatigué, un peu de machin, mais en fait au bout de 5 secondes, c'est franchement on s'engueule pas. En vrai, j'ai vu des gens qui s'engueulent, non on s'engueule pas, en vrai. J'aimerais bien dire limite, ouais putain on s'engueule.
Et toi, on va faire une Gallagher dans 5 ans?
Non, je pense pas, j'aimerais bien, putain.
J'aimerais bien. C'est le côté rock, ça,
c'est sur l'attitude.
En fait, c'est ça qui est notable, en fait, c'est que dans vos deux approches, c'est vachement carré en fait, c'est vachement pointilleux sur les détails des trucs, alors que pour moi le rock c'est justement on fait le truc un peu à la Zob, branche le truc et le son il est éclaté, mais c'est pas grave, tu vois.
C'est parce qu'on a des côtés producteurs.
Ouais.
Et on a les deux casquettes. Enfin moi je sais que j'ai un côté hyper schizophrène en studio, c'est que et là je suis en plein dedans en ce moment, c'est que moi mes morceaux c'est hyper instinctif quand ils arrivent et je vais très très vite. Et donc voilà, donc j'ai l'idée, j'ai envie de cracher un truc, de crier un truc ou de le susurrer ou pas, peu importe.
Ouais.
Et dès que j'ai l'idée, faut que ça aille très très vite, parce que tu vois, c'est un moment. Et vu que j'ai pas de band, faut que j'aille vite avant que l'idée parte. Donc je vais à la batterie, je vais faire la basse, la guitare, paf, je fais une espèce de crowbar un peu du morceau.
Et après, je choisis les snares pendant 8 ans.
Voilà. Mais c'est pas je choisis les snares, parce qu'en fait, la snare, je l'ai enregistrée, tu vois.
Ouais.
Donc, en fait, c'est le problème. C'est que le problème de la démo, surtout d'une démo cool, si la démo, elle est claquée, il n'y a pas de problème. Mais d'une démo cool, au moment de finir, tu vas te dire, ah oui, mais attends, là, faut rendre le truc. Moi, je suis habitué à ça.
Ah ouais, putain.
Ok, faut monter le volume, etc. Enfin, tu vois, genre, t'as tout le process de mix et de mastering. Et forcément, quand tu montes le volume, bah, t'entends plein de petits défauts, de trucs que t'aurais pu mieux faire et tout. Et
t'y retournes?
Ah bah, là, du coup, soit j'y retourne, soit vraiment je passe des heures à essayer de passer. Donc, je passe les drums dans
soit
les bancs, machin, je fais des.
Hein? Soit tu trigues.
Je ne veux pas trigger. Je ne veux pas
trigger. C'est ce qu'on dit
tous, mais. Non, bah, c'est ça. Moi, l'obsession, c'est surtout le son des batteries. Je trouve que ça fait vraiment un track. Enfin, si le morceau est bon, évidemment. Mais si le morceau est bon et que la batterie tape juste là où il faut, c'est ce qu'il faut.
C'est mieux, ouais.
Ouais, bah ouais, c'est mieux. Bah, c'est parfait. Enfin, tu vois, il y avait Renaud dans votre dernier podcast qui parlait de le passage où il parlait des médiums, etc. Il parle du morceau, enfin de l'album 2001 et de Steel. Enfin, genre quand t'écoutes la drum de Steel, tu vois clairement de quoi Kevin Parker de Tame Impala il s'est inspiré. Enfin, tu vois, ce truc-là, justement, Tame Impala, tous les trucs, c'est genre mélodie de voix qui est cool. Et son drum qui bastonne et qui est genre juste parfait, tu peux pas t'empêcher de,
ça,
rentrer dedans. Quoi.
C'est intéressant de parler de Tame Impala. On l'a très rarement évoqué dans cette émission, alors qu'en fait, c'est une influence majeure, j'ai l'impression, de ces dernières années, qu'il a vraiment matrixé beaucoup de gens. Est-ce que justement, le côté. On avait posé cette question à l'autre invité, le côté un peu. Je pense que ça a été moins cool à un moment, même, de dire moi, j'ai des influences rock. C'était pas forcément le truc, tu vois.
Après, c'est comme tout.
Le plus valorisé, etc.
Tellement des cycles.
C'est ça, c'est qu'il y a tellement eu un moment où c'était pas cool.
Nous, on a de la chance, parce que je pense que si tu nous avais demandé ça il y a 5 ans, on aurait dit pareil, mais en fait, c'est juste que c'était pas cool. Mais c'est des cycles. Et en fait, du coup, il y a 7 ans, c'était chaud d'écouter vraiment du rock. C'était pas, c'était pas le truc, quoi. Tu vois, tu pouvais pas.
En fait, il y a quand même le truc clairement qui revient régulièrement.
En tout cas, en France.
Au-delà du truc, le rock est mort et tout, mais surtout un truc de est-ce qu'il y a une scène? Est-ce qu'il y a des groupes intéressants? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire cette musique, de la porter, tu vois, etc. Et t'avais pas l'impression que forcément qu'il y avait un bouillonnement ou un truc un peu très, tu vois, qui.
Non, mais là, c'est parce que tu parles rock, Johnny, rock de papa, quoi.
Ah non, pas forcément. Ouais, après, ça dépend ce qu'on appelle rock. Mais globalement, les refs rock, tu vois, même là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Libertines, Strokes, etc. C'était pas le truc. Tu vois, c'était daté quand même à un moment. Et là, j'ai l'impression qu'on l'assume un poil plus aujourd'hui.
Ouais, bah oui. Ouais, là, je te rejoins, Clément, parce que ça, pour le coup, c'est cyclique. Enfin, juste avant, on a eu le gros revival de. Du R&B 90s, tout le monde réécoutait les Pussycat Dolls, Destiny's Child et tout, c'était Justin Timberlake, c'était le truc que tout le monde passait en soirée, même les trucs français de cette époque-là qui sont en vrai, mais genre chambés, genre hyper bien produits, avec des grilles d'accords de zinzin, franchement, comparé à.
T'as des noms là parce que je cherche
je sais pas, mais genre rien que Tu m'oublieras de La Rousseau, tu vois, dans la grille d'accord. Elle est... Mais tu vois, mais je veux dire, tu vois ce moment là où tout le monde le bastonnait dans les soirées, on n'en pouvait plus, mais tu vois, c'était cool, c'était un peu genre ironique,
c'était marrant, c'était cool,
hyper, un peu ironique d'écouter ça et tout. Là, je pense que tout le monde en a marre.
Ah ouais.
Mais voilà, maintenant, bah oui, tu fais une soirée à part ou quoi, t'es obligé d'écouter Last Night des Strokes.
C'est ce que j'allais dire. Tu mets Last Night, tu vois, voilà, tu mets des fois en mix, tu mets Last Night et t'as l'impression que les gens ils disent ah oh, putain, vas-y, c'est le meilleur morceau du monde et tout.
Putain, non, mais,
c'est marrant quoi.
Mais
c'est cyclique.
C'est cyclique.
Bah ouais, c'est cyclique. Grave.
C'est complètement cyclique.
En tout cas, il y a un retour là, parce qu'il y a un rock moderne qui. Je trouve qu'en tout cas, il y a un truc moderne aujourd'hui dans le rock et dans le son. Et je sais pas si c'est parce que. Je sais pas si c'est un truc de personnalité ou d'époque que le côté ce que tu disais, enfin je sais plus c'est toi ou toi qui disais ça, mais de on s'en fout, on fait
et genre alors cette date si on parlait
bah, en fait je pense que c'est plus un truc de personnalité parce que j'ai l'impression que t'as des gens qui font pas du rock qui peuvent s'en foutre complètement et qui laissent complètement les producteurs faire, t'as des gens toute leur vie ils vont être là à vouloir cadrer tout, mais en tout cas dans le rock je pense qu'on a été un peu obligé de et dans les textes, mais ça c'est comme tout, et dans la façon de produire parce que ça a été tellement fait refait, il y a eu tellement des disques fous et il y a eu la technologie qui est arrivée aussi, on a vu la technologie dans le rap et on l'avait un peu moins vu dans le rock. Et là tu vois des producteurs comme James Ford, tu vois des mecs qui ont compris ça.
Il est derrière qui James Ford, il a produit pour qui?
Bah à la base c'est lui qui a fait les Arctic Monkeys de la Shadow Puppets, mais à l'époque.
Et là il a produit le dernier Fontaines D.C.
D.C. Wet Leg. Non pas la dernière partie, mais Fontaines D.C. Wet Leg, et il a fait le dernier de Pulp qui sonne quand même on aime pas mais plus moderne que. Tu vois, il y a tout ce truc-là, le son de Wet Leg, par exemple. Tu vois, moi, j'ai vraiment trouvé super.
Et typiquement, ça,
Fontaine,
c'est
tu vois, groupes, ça cartonne tellement.
C'est des groupes relativement récents, rock, enfin, en tout cas, qui ont atteint une popularité mondiale relativement récente.
Et lui, il a compris, par exemple.
Et qui m'a, enfin, tu vois, genre Fontaines d'ici, c'est monstrueux.
Non, moi, j'aime bien. Hein.
Ouais, moi, j'adore.
Comme
aussi.
Quoi hein, tu vois.
J'adore.
Non, mais j'adore. Je pensais que j'aimais pas. Mais
ça, je trouve. Il y a un truc différent aujourd'hui, c'est parce que, par exemple, tu vois, Fontaines d'ici, ça doit être leur 4e ou 5e album. Ouais. Et c'est là où ils commencent à tout péter.
Oui, là où avant, c'était moins comme ça.
Ou les Arctic Monkeys, enfin. Ça prouve que les époques ont complètement changé, même s'il y a un revival du rock. Mais les Arctic Monkeys, dans les années 2000, il y avait vraiment ce truc de c'est quoi le nouvel artiste rock. Eux, ils ont explosé, mais même avant le premier album. C'était à l'époque MySpace et tout. Enfin, ça a vraiment rien à voir. Là, tu vois, les Fontaines, ils ont 4 albums avant, je crois, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est pas gagné.
Qui sont chamés. Même Skintifia, quand même, on commençait à entendre parler d'eux. Et ouais, c'est peut-être le 4e. Mais tu vois, le 5e album d'Arctic Monkeys, il faisait déjà des stades en fait, tu vois, quand ils ont fait ça. Donc c'est.
Il y a une espèce de
glissement de terrain entre.
Il y a de la musique, j'ai pas 1 million de morceaux qui sortent tous les jours sur Spotify.
Ouais,
donc
voilà.
En fait,
maintenant,
le temps qu'on entende parler de toi, il faut en sortir un peu des morceaux. Avant d'arriver, t'avais la maison de disques. Et ça, c'est vraiment dans les années 2000 que ça s'est vraiment pété la gueule, quoi.
Il y a un morceau de Fontaines d'ici que vous adorez, qu'on pourrait citer.
Moi, j'en kiffe plein, en vrai, franchement.
Max, c'est quoi ton préféré? On va voir si ça correspond avec ceux de Clément, si on a un de commun un peu.
Bah, Starbuster. Hein.
Ouais. Bah, lui, je l'adore. Ouais. Et le morceau un peu plus balade, In the Modern World, j'aime bien aussi.
Ah, tu vois, Max, ce morceau aussi?
Ouais. Ça me fait penser un peu. C'est marrant, il y a plein de morceaux de cet album qui me font penser à du Lana Del Rey. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais? Ah ouais, putain.
Bah, attends, c'est quoi In the Modern World? Et après, on s'écoute un petit extrait Starbuster. Ouais. Comme ça, on voit le truc Lana Del Rey ou pas. In the city, right beside me, in the modern world, in the modern world, I don't feel anything.
Ça c'est tellement Lana Del Rey, je trouve. En fait, si, celui-là.
Comme ça. Ouais. Ça, je suis d'accord.
Ah, je vois pas comme ça.
Ouais. C'est quoi ce morceau de Lana Del Rey déjà? Ça. Ça.
Ah, c'est ouf, je vois pas moi. Mais j'adore ce morceau. Mais tu vois, ça c'est quand même assez moderne, je trouve. Dans ouais. le son et tout. Il y a un truc assez. Je me dis pas genre, ouais, j'écoutais un vieux groupe de rock, tu vois.
Ouais.
Et il y a un truc vraiment aussi. Alors que c'est quand même 5 mecs sur scène, et il y a une époque quand même où je pense que le rock était quand même vachement associé à un truc masculin. Tu vois, les vraiment, même les, moi, les gars que j'adore, genre Alex Turner, Julian Casablanca, etc., c'était vraiment des mecs, tu vois, sur scène, genre, ouais. t'es les, genre qui rendaient ouf les meufs dans l'idée, tu vois, de l'esthétique du truc. Et eux, ils sont arrivés dans un truc. Mais tu, c'est 5 gars sur scène, mais tu te dis pas ça. Tu vois, ils ont un truc beaucoup plus féminin, eux, qui, dans leur look, dans leur truc, dans leur machin.
Parce que l'époque a changé aussi.
Ouais, mais
bon.
C'est ça. Mais c'est en tout, ouais. en fait, c'est tout un tout, le truc plus moderne, je veux dire. C'est que c'est un moment
c'est
aussi.
C'est entre, entre Lads de Dublin, un peu genre.
Exactement.
Leur album d'avant, c'était vraiment genre, on s'en fout, quoi. Faut les deux albums avant. Et là,
bande
d'un coup. D'un coup, il y a un côté plus looké, plus fashion, etc. Mais pas, je suis d'accord avec toi, pas dans le côté. Je suis une rockstar et
c'est un groupe qui vit bien sa popularité pour le moment,
ouais.
je trouve.
Faudra ouais, voir ça fait du bien. Temps. Et puis ils parlent, tu vois, politiquement, ils s'engagent, ils ont pas peur, ouais. ils disent les
sur
bonnes
la Palestine,
choses.
Par exemple.
Exactement. Et ils disent les bonnes choses et ils ont pas, ils, tu vois, ils sont, ils font partie de l'industrie parce qu'ils font les headlines des festivals, mais ils y vont, ils parlent et ça fait du bien en fait et c'est hyper inspirant pour, je trouve, des groupes comme nous aussi de, parce qu'il y a ce truc où quand tu commences, t'as peur de, des fois de, tu sais pas où tu vas et tout et ça te dit un peu, allez, mais vas-y, en fait, je m'en fous, moi, enfin, faut que je parle et faut que je m'exprime aussi et faut que je sois aussi un peu à comprendre le monde dans lequel je vis. On a tous ce rôle à une petite échelle, tu vois. Pour le coup, mais
Starbuster, on s'écoute rapido,
ça c'est énorme. Ouais. C'est sûr que c'est en termes de prod, en termes de prod, c'est ça, c'est ça, c'est ouf.
Allez.
Pour parler technique, il y a un truc qui est assez fou dans ce morceau, c'est qu'il n'y a pas de bas en fait, et c'est qu'une illusion. T'as l'impression que la drum elle est énorme, donc t'imagines du low end de fou.
Mais leur
fait,
album, leur album, il sonne pas, il n'y a pas de bas dans l'album. Là.
C'est tout dans la reverb en fait.
En fait, il n'y a pas de bas.
C'est ça. Il est dans l'album, mais pas de bas. Ouais.
Du coup, comme disait Renaud, ça sonne partout pareil.
C'est les médiums.
Il n'y a que des médiums. Il n'y a que des médiums.
Beaucoup ce morceau.
C'est devenu un classique en vrai déjà.
Ouais, ça, c'est fou. Ça c'est ouf. C'est vraiment
En fait, je trouve qu'il y a un truc qui justement met un peu tout le monde d'accord sur. Moi par exemple, qui suis plus orienté hip-hop, je trouve qu'il y a un esprit hip-hop de ouf là-dedans, la façon dont ça déclame le texte.
Bah lui, comment il chante, c'est du rap en fait.
Franchement, c'est. Ouais, et ça marche. Et
ils ont fait un morceau avec Nicap.
Ok.
Enfin, le chanteur, il a fait un morceau avec Nicap. Et en fait, il rappe quoi. Et ce morceau, il est oufissime. Vraiment, genre, c'est. Je sais pas si vous pouvez le mettre après.
Comment il se rappelle
je pense que c'est leur morceau le plus connu, mais c'est Fit Graham Chatton, parce que c'est le chanteur de.
Ok, c'est Better Way to Live.
Et en fait, il a ce truc, je pense qu'ils sont potes, ils sont irlandais, tous quoi. Et ce morceau, il est ouf. Genre, c'est vraiment, il rappe quoi en fait.
Vas-y, on peut s'écouter un extrait. Hein.
Vas-y.
Nicap, Graham Chatton, Better Way to Live. In this magic, and if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath all the chatter in this heaven, got a little peak one day, made me feel like I was seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We
theory to jury, tackle him a rut. Marvy Lamb, white Uggams, a noob. We hustle a fox, so a stroll and draw and false a walla. Four digit core, what do you know with Makara? I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, they're deuce that you mark one push. My narrow backer, be it while you strapping you from Oakley Pop. And then we both jump down and do your class handstand like a man's man can't. I'm on the upside of the seesaw.
Underneath all the thunder and there's magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay.
Franchement, c'est cool, non? C'est bien. Ça fait kiffer, quoi.
C'est marrant d'ailleurs qu'on arrive à reconnaître instantanément un rappeur quand il vient du Royaume-Uni. Ouais. Alors qu'en fait, un rocker.
L'accent est tellement vénère.
Ouais, l'accent dans le rap, c'est vraiment. Tu le reconnais instantanément, quoi.
Les mecs, on dirait un peu, tu sais, ce qu'ont voulu faire les Arctic Monkeys avec What do you call me when you're high? Ouais. Et là, genre vraiment, c'était ça en fait qu'ils voulaient faire.
T'sais. Ouais, putain.
C'est assez marrant.
J'adore ce morceau.
Ouais, mais c'est très cool. Je l'avais pas du tout ce morceau.
Ouais,
mais,
il est cool.
Et c'est bien. Et c'est ce que j'adore avec Guyane, c'est que il y a toujours un message un peu positif, tu vois. Un peu, il dit ouais, bon, ok, c'est la merde. Peut-être que je bois trop, machin, tout ça. Et en fait, ça va vers le mieux. Il y a toujours de l'espoir en fait dans ce qu'il dit. Et je trouve ça trop cool.
Grave. Est-ce que on dit souvent, est-ce que c'est devenu un cliché de le dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que qu'on a une époque d'hybridation, de mélange,
de fusion, tu veux dire?
Ouais, de
génération. Non, c'est pas un cliché, c'est
de
vrai.
Génération biberonnée Internet qui a tellement bouffé plein d'esthétiques différentes qu'elle va les mélanger et que en fait, on parle souvent du rock qui a pu devenir has-been, mais en fait, même parler de hip-hop aujourd'hui, ça peut être considéré comme has-been. Le rap a pris le dessus et en fait, le rap a pris plein de formes justement aussi hybride, mélangé, etc.
Non mais après ouais. Rap et hip-hop, on va pas faire un symposium sur mais pourquoi est-ce que le rap c'est du hip-hop toujours. Pour moi, à partir du moment où tu rappes, quel que soit le style musical, bah t'es dans le hip-hop, mon frère. En fait,
pour certains, c'est pas aussi clair que ça. Le rap a un peu certainement pris, tu vois, son indépendance d'une certaine manière.
Mais moi, tu vois, quand j'entends une Taylor Swift qui te balance quelques phases un peu plus parlées que chantées ou une rythmique, machin, bah, la meuf, elle fait du pop, en fait.
Elle rappe sur un morceau de pop.
Ouais.
C'est pas.
Ouais, mais tu vois,
il y a une petite nuance entre les deux, quand même. Parce que ça fait pas du morceau du hip-hop.
Ouais, mais dans l'autre sens.
Parce que dans le hip-hop, t'as quand même toute une culture, tout un monde derrière.
Je suis d'accord avec toi, mais par exemple, les rappeurs français qui marchent.
Ouais.
En fait, d'un point de vue strictement hip-hop, ils sont plus dedans, tu vois. Parce que c'est chantonné, parce qu'il y a plein de trucs qui empruntent à la musique.
Je suis d'accord avec toi. Là, ça vient de la pop ou de. Voilà. Mais c'est du rap sur de.
Mais surtout, en fait, pour moi, c'est surtout que l'esprit hip-hop, c'est quoi? C'est ce côté multidisciplinaire qui tend vers un sens aussi quasi, tu vois, un peu philosophique, de vie, en tout cas, de manière de vivre, etc. Et qui, en fait, n'est plus revendiqué.
Oui, mais en fait, il y a une esthétique, tu vois. Mais en vrai, moi, je préfère me dire que du coup, tout le monde fait du hip-hop, en fait. Tu vois, plutôt que de dire, ouais, mais toi, t'appartiens pas au club, parce que je trouve que t'es pas assez.
En tout cas, c'est vrai que tout se mélange. C'est marrant que tu te poses la question, parce que moi, c'est une question que je me pose énormément, justement, en ce moment, et par rapport à ma propre place dans la musique. Et c'est vrai que, en fait, je trouve que c'est à double tranchant ce truc qui se. De mélange extrême, de fusion, de. Je trouve ça et magnifique quand je sais pas, j'ai un exemple débile, mais putain, je vais reparler de Tame Impala, mais le moment où Rihanna a mis un morceau, littéralement elle a pris le master de Tame Impala, elle a rechanté par dessus, là ça a fait un pont entre deux mondes, tu vois, genre, un peu comme ce qui s'était passé à l'époque genre avec Jay-Z et Linkin Park, tu vois, genre c'était vraiment deux mondes,
ou Kanye et Daft Punk
ou Korn et Snoop dans leur clip, enfin tout ça. Sauf que là, on arrive vraiment dans une espèce de flou de tous les styles. Et
toi, tu t'interdis de faire certains trucs, par exemple?
Non, je m'interdis pas. Mais en fait, bref, tout ça pour dire que je me pose cette question. C'est que tout ça, c'est beau, mais sauf que c'est des mélanges de choses qui ont déjà été faites. Mmh. Et en fait, trouvez-moi aujourd'hui. Le thriller des années 80, tu vois, de Michael Jackson, ou trouvez-moi le Dark Side of the Moon des années 70, ou le Aphex Twin des années 90. Parce que t'imagines ça quand c'est arrivé, le frigo que tu te prends dans la tête quand ça arrive, je veux dire, ça n'existait pas avant, quoi. Et
tout le hip-hop des 90s.
Ouais, non mais voilà, ça aussi, tu vois. Mais là, aujourd'hui,
c'est quoi,
en 2020...
C'est le côté,
2020,
la rupture et se prendre dans la gueule, un truc que t'avais jamais entendu.
Bah, le truc n'existe pas. Ouais, tu vois, le truc vraiment genre...
Moi, j'ai une théorie là-dessus.
Hyper déroutant. Ça m'intéresse. Et du coup, forcément, ça vient d'influence et de travail et d'un mélange de trucs. Et d'un coup, tu trouves quelque chose, tu vois. Mais voilà, moi, je me pose cette question-là. Évidemment, moi, je mélange plein de trucs. Et j'estime pas du tout réinventer... Enfin, inventer quoi que ce soit. Mais voilà, dans tout ce mélange et de toutes ces influences, et parfois d'essayer de... En fait, par exemple, moi j'ai un truc caractéristique dans ma musique et dans mon son, c'est mon son de guitare qui est justement, pour le coup, tout l'inverse de Maggie, qu'on me dit qu'il est dégueulasse depuis des années, et parce qu'il est... c'est un truc très bizarre, qui sonne presque industriel, presque comme un synthé, genre un truc qui fait...
T'auras un morceau où on l'entend bien, ou qu'on pourrait s'écouter ?
Ouais, Nothing Ever Changes, on l'entend bien, par exemple, c'est le truc de l'intro.
On va se l'écouter tout de suite. I tell you once again. Yes, I tell you once more. These people on the stage. Tu vois, pour le coup, moi, ce morceau, dans ma tête, c'est un morceau de funk.
Ah ouais?
Dans ma tête.
Alors pour moi, c'est un morceau de l'Arctic Monkeys, pour être honnête, tu vois.
Ah ouais.
Enfin, ouais, pour moi, j'ai plus dans cette ref là tout de suite, tu vois.
C'est marrant.
Mais après, c'est la voix un peu crooner sur les bords, okay. Tu vois.
Mais imagine vraiment avec les codes du son de. Voilà. Ouais. Mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, le moment où t'as un embryon dans le truc, un embryon dans ta tête, et tu te dis, ok, bah, comment je fais pour le faire sonner de l'époque de maintenant, qu'est-ce que. Voilà. Et je trouve que les trucs qui te dérangent sont les futurs refs de demain. Donc, pareil, je dis pas que j'ai trouvé le truc. Mais limite, en fait, quand on m'a dit ton son de guitare, putain, il est pas très agréable et tout.
Tu t'es dit, au moins, t'as ta patte, quoi.
Ok. Si, y a un pote qui m'a dit une fois, Alexandre Courtès, qui a fait plein de.
Bien sûr.
Qui a fait les pochettes de Cassius, qui a designé les casques des Daft Punk, etc. Alors, c'est un grand du monde visuel en France, du coup, à l'international. Il m'a dit une fois, je crois que c'était sa tante qui lui avait dit ça, d'ailleurs. Ton goût de chiotte, ton mauvais goût, il y a que toi qui l'as. Certain. Et c'est ça qui te rend le plus unique au monde. Et ce son de guitare, moi, je l'ai toujours aimé, et tout le monde me disait genre, putain, il est dégueulasse. Je me suis dit, voilà, vous allez en avoir encore plus maintenant.
À l'inverse, du coup, si t'avais dit c'est génial.
C'est génial. Ah bah, je me suis
dit, je serais dégage.
Ouais. <J'ai pas. rire> On n'en est pas là, en tout cas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que je l'ai un peu bastonné et que je l'ai forcé, bah, les gens me disent, mais c'est comment tu fais, c'est quoi? Genre, tu sais, à la fin des concerts, ils regardent les pédales et tout.
Nul n'est prophète en son pays truc, à chaque fois, c'est pareil.
Le truc se retourne maintenant, ouais, tu vois. Ouais. C'est marrant. Hein.
Bah, il est bien le son. Moi, je kiffe.
Ouais,
je kiffe ce son de guitare.
Too late.
Toi, Clément, ce côté, t'as aussi ces mêmes réflexions que Max, un peu sur l'hybridation. Et j'ai envie de dire aussi, parce qu'il peut y avoir deux teams, c'est-à-dire que Max, il dit comment je peux sonner moderne. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'artistes aussi qui vont dire mais comment je peux au contraire rechoper le son des années 60, tu vois. Enfin, il peut y avoir aussi ce truc.
Moi, je suis ça, c'est plus votre... Ouais, en fait, le truc, c'est que nous, on a eu un groupe avant où pour le coup. J'étais vraiment, enfin, j'ai fait de la musique avant avec des gens qui étaient obsédés par sonner comme tous les derniers trucs qui sortaient. Okay. Et à la fin, on se perdait, en fait. Moi, je me disais, mais putain, je fais des morceaux, ce n'est pas moi. Genre, moi, j'écoute d'autres choses. Pourquoi je vais faire un truc comme, je sais pas, genre Steve Lacy ou machin, alors que c'est des artistes que je trouve super, mais eux qui font leur truc à fond parce qu'il a sorti là et que c'est cool. Et d'un coup, tu te fais un morceau qu'au dernier moment, tu vas changer des sons pour essayer d'être dans ce truc-là. Et moi, j'étais hyper malheureux de ce truc-là. Donc, j'ai eu besoin d'un truc beaucoup plus radical de ok, en fait, qui je suis, qu'est-ce que j'aime.
Ouais, c'est contre-productif, justement,
ouais,
c'est le truc qui fait que c'était
et plutôt
si
de marteler,
unique,
marteler un truc. Et nous, c'est pareil, tu vois, on nous a beaucoup dit, il y a un truc très naïf dans ce que vous êtes et ce que vous faites et tout. C'est les gens qui avaient un peu le seum, tu vois, qui disaient un peu ça. Et moi, au début, je complexais un peu de ça.
Presque un peu simpliste derrière.
Ouais, mais tu vois, et en plus, on s'appelle Kids Return, c'est le nom d'un film japonais de Kitano. C'est vraiment ça veut dire retour à l'enfant, le retour des enfants, retour à l'enfant, ça dépend. Et c'est un film sur deux gars qui sont meilleurs potes. Il y en a un qui devient yakuza, l'autre qui devient prof de boxe, champion de boxe, qui se retrouve après. Et nous, en fait, on a eu. Et en fait, en avançant, vraiment, je me suis rendu compte à quel point c'était fou, à quel point tout le monde a vraiment genre un truc enfant en soi. les artistes, je pense, du coup, plus que les autres. Enfin, en tout cas, parce qu'ils... Et en fait, c'est ça dont il faut vraiment se servir à fond et pas en avoir peur et pas en avoir honte. Et en fait, la naïveté, c'est ce qu'on a de plus beau. Après, en fonction des vies qu'on a eues, des machins et tout, t'en as qui ont des degrés de retransmission de ça et d'expression de ça et d'accessibilité à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués. Moi non, Adrien non plus, et on a envie de faire ça. Et après, la question de modernité, pareil, c'est des trucs que je me pose. Mais en fait, je sais pas si utiliser tous les plugins qui sortent et avoir un son ultra comme ça, c'est genre être moderne. Mmh. Parce que finalement, tu vois, aujourd'hui, c'est comme les gens.
Clairement pas.
Ils consommaient. Tu vois, super. En fait, maintenant, les gens, ils se remettent à consommer du bio, tu vois. En fait. Et genre, en fait, c'est ça qui est être moderne, c'est faire plus attention à ce que t'as autour de toi, dans le monde dans lequel t'es. Et moi, je trouve que se dire, bah vas-y, se mettre une contrainte, pas trop utiliser l'ordi, ou en tout cas l'utiliser pour les bons trucs. Pas utiliser forcément ChatGPT quoi, et utiliser aussi d'autres choses et faire un truc qui sera pas forcément peut-être le plus parfait possible, mmh. mais mettre la main dans les synthés, dans la MPC, sur les batteries et jouer pas forcément si bien que ce que tu pourrais faire, mmh. ou alors demande à des musiciens. Nous, il y a beaucoup de musiciens qui sont venus jouer pour nous des trucs qu'on avait en tête et les trucs qu'on voulait mal jouer, on les a mal joués. C'est ce besoin de vérité que je trouve moderne, en fait. C'est dans un truc où t'as l'intelligence artificielle, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mmh. Je trouve que quand t'as des gars qui arrivent ou des gens qui arrivent et qui font un truc vraiment sincère, bah en fait, je crois que c'est peut-être ça le nouveau truc, tu vois, qu'on attend des artistes. Tu peux tout faire maintenant.
Il y a une petite nuance entre être moderne et donner de la nouveauté aux gens, c'est pour ça que je suis hyper d'accord avec toi, c'est que de se servir de tous les outils qu'on a aujourd'hui, même si il y a certains trucs qui sont hyper pratiques, etc., ou les nouveaux plugins, etc., on s'en fout, c'est vraiment...
Mais ça peut être bien,
c'est
aussi.
Ça peut être très bien, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va régir si c'est moderne ou pas, en fait, ça va devenir moderne quand ça va être une nouvelle idée, et ça va être le son du moment, et ça va être, ah, ok.
Mais je crois que ce qui m'obsède le plus, c'est, en fait, finalement, c'est pas la modernité, c'est plutôt la dimension intemporelle. En fait, moi, je suis fasciné par les artistes. Et en fait, les gens confondent beaucoup ça aujourd'hui. Et moi, vu que pour le coup, j'ai ce truc aussi, où, comme Max, où on se retrouve avec des artistes à produire, des gens. Et c'est fou ce côté où tu... En fait, il y a vraiment une vraie différence. C'est qu'il y a un truc intemporel, il n'y a pas de recette. Je pense qu'il y a un truc sincère. Et il faut choper tout ce que tu as toute ta vie entendu et en faire toi quelque chose. Le truc moderne, il y a vraiment une sorte de... comparaison avec ce qui sort aujourd'hui et dans un truc et ouais, moi je crois que je suis vraiment mes albums préférés ouais. C'est des albums intemporels et du coup donc pas forcément modernes le jour J où ils sortent mais en fait qui par contre aujourd'hui tu te dis c'est encore une ref alors que tu vois un truc qui peut être le truc le plus branché le plus cool de 2015 tu peux plus l'écouter aujourd'hui
tu vois c'est ce que je te disais avec
Chronique et 2001
ouais.
C'est plutôt l'intemporalité je crois du truc
moi pour moi 2001 c'est moins un classique que The Chronique de 92
ah ok.
Parce que 2001, pour moi, il est trop marqué.
Et tu vois, c'est là où ça devient intéressant. C'est parce qu'après, et là, en plus.
Ouais, après, moi, c'est ça que je me suis pris.
C'est ça qui est ouf. C'est que tout le monde n'est pas d'accord, du coup, sur ça. Et ça, du coup, c'est vraiment kiffant.
Après, ça, c'est peut-être générationnel aussi, tu vois. Enfin, je sais pas.
Oui, t'en as des disques qui bougent pas. Et tu sais, t'es là, t'écoutes David Bowie, même aujourd'hui, tu vois. T'es en mode. Et tout le monde te le dira. Même les gens qui font du rap, de machin et tout, t'es en mode, ok. Il y a un truc.
Ça m'amène à. On revient un tout petit peu sur la discussion de Max tout à l'heure qui disait qu'il n'a pas l'impression de se prendre dans la gueule des ruptures, des trucs vraiment complètement neufs où tu te dis, waouh, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mmh. T'évoquais Aphex Twin, Michael Jackson, Thriller, des choses comme ça, etc. Mais j'ai une théorie là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez. Après, on s'écoutera un morceau de Kids Return.
C'est pas pressé.
Non, mais c'est un peu. C'est... Parce qu'en plus, parce que tu parlais un peu là de votre musique, ce côté intemporel, on pourra peut-être écouter sur 1997 un morceau où tu t'es dit, bon, là j'ai l'impression qu'on a touché à quelque chose qui peut rester dans le temps, par exemple.
C'est super dur. Moi, j'ai du mal à avoir du recul sur nous.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, c'est le problème aussi d'être un peu fan de musique. Ouais. C'est qu'il y a des morceaux où je me dis un peu plus, ça je pense que dans peut-être 5 ans, il sera toujours cool, 10 ans et tout. Après, je trouve ça tellement dur.
Est-ce que c'est un truc que tu cherches aussi ? Tu vois, c'est ça là.
Je pense que tu le cherches inconsciemment. Enfin, par exemple, moi, mes insomnies, elles sont plus dues à ça. Et en fait, quand par exemple, on se disait en off aussi notre rapport au mix, en fait, le mix, c'est le moment où tu lâches le morceau. Enfin, et après, il y a le mastering, évidemment, mais je veux dire. Enfin, pareil, moi, je dors pas trop aussi. Mais je veux dire, le moment où.
Je dors jamais, en fait.
Non, mais le moment. Non, en plus, on a des. Enfin, bref. Voilà. Mais je veux dire, le mix, il y a un truc de. C'est le moment, en fait, où tu te rends compte que c'est ce que les gens vont écouter. Et c'est ce qui va rester en fait. Mmh. Après, tu peux refaire tes mix et tout. On te dit ça pour te rassurer, mais en vrai, non. En vrai, tu sors ça et ça sort et c'est comme ça. Et ça me terrorise, par exemple. Plus que genre quand je suis au studio et qu'on produit avec tous les musiciens, les trucs machin, et que par exemple, Adri, ça c'est le truc qu'il a moins bien vécu que moi. De genre, putain, j'ai l'impression qu'on me prend mon morceau à des moments alors que nous, moi je voulais qu'on essaye des choses pour quitte à pas garder après. Et le mix, lui, était plus en mode, non, mais là, c'est bon, ça sonne, enfin, ça sonne bien, c'est chambé et tout. Et moi, j'étais en mode, ah putain, mais en fait, c'est le truc qui va en rester, fait, mes enfants, ils écouteront ça.
C'est ouf de se dire que votre génération d'artistes, vous produisez à un moment où la distribution est numérique.
Ouais.
Et pourtant, on a toujours les contraintes de l'époque où on pressait des vinyles, tu vois.
Mais plus, parce que...
C'est-à-dire que pour moi, en fait, je me dis, avec des plateformes, alors, on parle de Spotify, mais Apple Music, Deezer, ou whatever, en fait, tu devrais pouvoir versionner ton album comme un logiciel, en fait.
Non, mais moi, il y a le truc qui m'a rendu...
Ça, c'est le patch 1.1, change les drums.
J'ai hésité entre 3 mix. Ah, mais moi, là, attends, mais si on fait ça, moi, j'ai plus fini.
Mais oui, mais en vrai, parce que quand tu vois les potentielles angoisses, tu vois, les angoisses dans lesquelles ça peut vous mettre et tout, de vous dire, putain, ça y est, là, je le...
Il y a une autre dimension, c'est qu'en plus, c'est que tu fais ton morceau, tu le masterises, et après, tu le mets sur Spotify. Et là, t'as une crise d'angoisse à quel point il sonne plus pareil.
Ouais.
Il est défoncé, c'est compressé, ça c'est horrible. Ouais. Et moi, genre, du coup, je mettais Tidal, je regardais tous les trucs et tout, et j'étais en mode, c'est pas possible. Donc en fait, là, tu te poses la question, tu dis, mais est-ce que je dois masteriser du coup pour Spotify dans ce truc de modernité de. En fait, moi, je veux que les. Est-ce que je suis prêt à faire un master en gros dégueulasse pour que après les gens écoutent un truc à peu près comme moi j'avais en tête et passer par cette étape de. Entre 2 mois horribles, t'écoutes ton master, tu dis, mais c'est pas possible, je vais pas livrer ça. Mais on te dit, bah ouais, mais en fait, si tu veux qu'il sonne fort, eh bien, il faut le livrer comme ça, avec autant d'aigus, machin et tout, parce que il coupe les aigus. Ou est-ce qu'en fait, tu te dis, en fait, je m'en branle, parce que de toute manière, les algorithmes, ils vont changer dans 3 ans, et qu'en fait, ce qui compte, c'est ce que je livre. Et en fait, moi, c'est ça qui est important pour moi. Moi, tu vois, c'est plus ce genre de question où je suis en mode, des fois, je me dis, mais. je préférerais ne pas savoir tout ça, en fait. Ouais,
le lossless qui arrive sur Spotify, là, d'ailleurs. Ça a été annoncé. Enfin.
C'est vrai. Mais est-ce que tu avais vu ce truc de. C'était le mec de Wolfpack qui parlait du morceau, le tube de Diana Ross, I'm Coming Out, produit par Nile Rodgers et Chic.
Bien sûr.
Et en fait, là, ils ont sorti un mix. En gros, le mix qui est sorti et pas du tout le mix qui était prévu. En fait, c'était Nile Rodgers avec Chic qui avait mixé la première version. Et vraiment, enfin, c'est. Ok, c'est le même morceau, mais le feel, il est tellement différent. Enfin, genre, la version de Chic, forcément, t'as l'impression que c'est un morceau de Chic. Enfin, tu vois que c'est produit par Chic. Et je crois que c'était, je sais plus quel label c'était à l'époque, mais ils ont dit non, on va faire un autre mix, où c'est elle qui a voulu. Enfin, je sais plus exactement l'histoire. Et tu vois la différence d'un mix. Donc là, à l'époque, c'était encore un peu plus entremêlé. Je trouve que tout glisse maintenant vers, le producteur est déjà mixeur, le mixeur est déjà un peu mastering. Mmh. Avant, c'était plus l'inverse. C'était le mixeur était un peu plus producteur, etc. Enfin, bref.
Et tu vois vraiment la
différence entre les deux.
Ça m'évoque aussi, je sais plus quel morceau des Stooges, où t'as un mix de Bowie et t'as un mix vraiment de ce que voulait Iggy, hip-hop. Et en fait, pareil, les morceaux n'ont pas du tout la même intensité.
Et MGMT aussi. Ils ont sorti sur Spotify, t'as Kids et Time to Pretend et tous les morceaux qu'eux avaient mixés, quoi. Et après, mixés par Dave Friedman. Mais c'est fou. Le morceau, il est là, même quand tu vois dans leur vidéo là, qui a buzzé.
Ouais, c'était leur
EP. Le morceau, il est là.
Leur premier EP.
Mais t'écoutes, tu dis, putain, mais t'as le mec qui en a fait un tube, quoi. Ouais, et genre, qui a vraiment. Il y a un élément dans le morceau d'ailleurs de prod, c'est genre une guitare derrière ou je sais pas quoi, que t'entends pas dans leur version et que t'entends à balle dans le truc. Et c'est vraiment genre, tu dis putain, mais c'est fou à quel point ça peut faire le truc.
C'est pour ça que je dis, en fait, on devrait pouvoir versionner son album.
Mais c'est. Après, est-ce qu'on reste dans le domaine de l'art à ce moment-là? Parce que l'idée de l'art aussi, c'est vraiment de fixer sur un support.
En vrai.
Et de dire, voilà, je vous le livre, c'est tel quel.
Oui, mais
on vient pas dessus,
attends,
tu vois.
Est-ce qu'on est encore dans l'art, déjà, quand on parle d'industrie musicale?
Ouais,
quand tout le monde sort ses morceaux le vendredi, quand t'es featuré dans des
playlists. On en a parlé plusieurs fois.
Je sors le mercredi. Voilà.
Tu vois, non, mais en fait, à partir du moment où il y a aussi une approche qui consiste à essayer de fit le plus possible avec les attentes des gens, les attentes de l'industrie, les attentes de trucs, tu formates tes sons, tu fais aucun morceau qui fait plus de 3 minutes 30. Déjà, 3 minutes 30, les gens ils sont là, waouh, c'est long, tu vois. En fait, est-ce qu'on est encore dans l'art quand on est à charcuter ta propre musique, tu vois? En vrai, moi je me dis au contraire, là tu laisses le contrôle à l'artiste.
En fait, ouais, c'est ça, mais on les. Ouais, mais justement, est-ce que c'est. Ouais.
C'est
la volonté de l'artiste. Mais en fait, en vrai, t'as le droit de sortir un EP de 5 mix différents. Juste, c'est pas.
Non, mais.
Bah, il marchera pas ton EP, quoi.
Ouais, voilà.
Moi, ce que je kifferais, c'est que, genre, tu vois, quand tu sors un versionnage de ton morceau,
ça soit sur l'album qui est déjà dispo sur les plateformes, avec tu perds pas ton nombre d'écoutes, machin, etc. Mmh. Et à la limite, les gens
genre
peuvent
tu
après
et tu
faire un
quoi.
Clic droit et choisir ouais. quel mix ils veulent, tu vois.
Écoute, ouais. peut-être, tu tiens peut-être un peut-être. Truc là.
Ah, dans une chronique 404 à l'époque.
Monte ta plateforme.
Moi, je suis intéressé de savoir ta théorie. Tu parles d'une théorie tout à l'heure.
Sur le fait qu'on n'est pas, qu'on a l'impression de plus avoir de rupture dans la musique, de se prendre dans la gueule un truc qu'on se disait, j'ai jamais entendu ça de ma vie, et c'est une révolution culturelle.
T'as eu ça dernièrement?
Non, mais je pense qu'en fait, ça n'arrivera plus, mais parce que
c'est normal.
C'est la façon dont on documente la vie culturelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers Internet, etc., on voit petit à petit, tout le monde a accès à toutes les petites parts d'évolution musicale. C'est-à-dire qu'avant que ça touche le grand public, une musique, elle ne sortait pas de nulle part. Elle avait vécu plein de petites étapes de transformation pour arriver à un produit fini qui, lui, on se le prend dans la gueule.
Oui, c'est graduel.
Comme, comme les gens n'y avaient pas accès, parce que c'était pas, il n'y avait pas encore de diffusion de masse à ce point où des trucs de niche pouvaient toucher le grand public, et ben tout d'un coup, le grand public se prenait un truc qu'il n'avait jamais entendu sans écouter toutes les étapes de transition.
Non, il n'y a pas que ça aussi.
Aujourd'hui, juste terminer là-dessus, après tu nous diras si c'est un truc supplémentaire. Aujourd'hui, avec Internet, et ben chaque petite transformation, chaque artiste qui va un peu se le réapproprier sans complètement le transformer, bien lui va déjà diffuser à grande échelle sa musique. Et puis le suivant qui va encore le transformer un peu, etc. Jusqu'à qu'on arrive en fait à quelque chose d'assez neuf en réalité. Mais comme on a vécu, on a suivi toutes ces transitions, et ben on ne le vit pas de la même manière avec ce choc.
C'est sûr que c'est Internet. Hein.
Ouais, pour moi, c'est aussi le time to market qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, des fois, tu pouvais avoir un artiste qui mettait 3 ans à faire un autre album.
Ça, c'est maintenant, c'est aussi. Que les gros artistes qui font ça. Ouais, les jeunes artistes,
en fait,
tu peux plus faire ça.
T'es obligé de bastonner tout le temps en flux tendu.
Nous, on a mis 2 ans et c'était chaud. Je l'ai senti, tu vois.
Ouais.
J'ai senti l'impact que, genre, on avait attendu 2 ans. Nos équipes, elles nous ont dit, putain, vous avez attendu 2 ans. Et alors qu'en fait, on avait besoin à un moment de faire ça et on a fait d'autres choses.
Et en plus,
choses.
C'est rien, 2 ans.
Non, on a fait que, on a fait une BO de film, tu vois. On a fait plein de trucs et tout, genre, vraiment. Mais quand même, quoi. Et là, je me suis dit, là, tu vois, on est en mode, non, vas-y, on va sortir plus vite. Tu vois, c'est un vrai truc.
Le truc le plus marquant pour ça, par exemple, c'est le clash qu'il y a eu entre Kendrick Lamar et Drake l'été dernier, là. Où en fait, à l'ancienne, il aurait fallu attendre pour avoir autant de réponses et de réponses à la réponse, il aurait fallu attendre 5 ans. Parce que les mecs, quand ils se clashaient, ils attendaient l'album d'après pour faire la réponse au premier gars. Tu vois, donc t'attendais un an, puis un an, puis un an, puis un an. Et en fait, là, les mecs, en 3 semaines, ils ont sorti 4 réponses, tu vois.
Je pense que ça joue ce dont tu parles. Mais il y a vraiment aussi cette idée de documentation quasi universelle, permanente,
Instagram et tout, quoi. Et même les maisons de disques aujourd'hui, ils te disent, t'es comment sur TikTok, tu vois. C'est vraiment, c'est important, quoi.
T'es convaincu, Max, par l'explication?
Ouais, mais en fait, il y a un truc.
Mais c'est plutôt positif.
Par rapport à ce que je disais, je trouve qu'on met pas forcément exactement le doigt dessus. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de culture du revival et évidemment le twist.
Il y a toujours eu, en vrai.
Mais le rock, c'est du revival.
Dans les 90s, Blur, en fait, ils s'inspiraient des 60s à fond. En fait, il y a toujours.
Non, mais d'accord. Je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu aussi une question de matériel, ce qui était mis à disposition. Enfin, je veux dire, tu vois, quand la Terre 909 est arrivée, c'était le début de la techno. Et ça, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui?
Il y a beaucoup de gens qui disent. Moi, je suis pas rentré dans ce monde encore, même si ça m'intéresse, mais le modulaire, il y a beaucoup de gens qui disent que. Ouais.
Et puis, non, mais les gars, on avait que Autotune, hein.
Ouais, mais voilà, c'est fait. C'est aussi. Ouais, tu vois, c'est quoi aujourd'hui le nouveau truc?
C'est pour moi aussi fort que la 808.
Qu'est-ce qu'on peut surutiliser pour créer un nouveau courant? Enfin, je veux dire. Là maintenant je vois des trucs sur Insta de vidéos de gens ils sont même plus sur des dos normaux des Logic ou des Ableton ou quoi, ils tapent du code, frère, ils tapent du code et ils font du son en tapant des lignes de code, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est ça le truc de demain?
Sauf que c'est possible, hein.
Sauf que c'est juste plus galère que je peux faire sur Ableton et Logic, ça sonne pareil, enfin, genre. Donc quel est l'intérêt?
Non, mais tu sais pas, moi je sais pas le modulaire si c'est un vrai nouveau monde ou pas, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui disent que ça t'ouvre vraiment, genre, dans un truc où tu utilises plus forcément ton Juno 106 pour faire avec les mêmes, enfin, il y a un truc en tout cas où dans le son, après, c'est peut-être au final un semi-truc nouveau, tu vois, au final.
Oui,
mais
c'est-à-dire que le modulaire, c'est pas récent.
Ouais.
C'est plus des approches, je pense. Du coup, je vais me contredire par rapport à ce que je disais au niveau du matos, mais.
Pas sûr que ce soit une question de matos.
Mais non, c'est pas.
Si, il a raison quand même.
On envie encore des révolutions de matos.
Ça peut, tu vois, quand par exemple, la 808, c'est arrivé, ou la 909, etc. Genre, c'était la centerpiece d'un style de musique, tu vois. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que là, un des derniers courants qui est né, on va dire plutôt récemment, donc l'hyperpop, t'as énormément de DX7 et trucs comme ça, donc qui sont hyper 80s, voire des M1, genre plus 90s et tout.
Mais genre au Kelou, tu vois, on peut dire que c'est un peu nouveau truc avec plein d'influences de que tu sens des années 80, des années 90, mais c'est une approche hyper intéressante, hyper dénudée de la pop musique et aussi unhinged de la mélodie qui pouvait être tu vois, tous les trucs un peu guilty pleasure, enfin tu vois.
Ouais, bien sûr, bah, ça c'est
ces trucs-là, ces années-là, de mettre en c'est d'appuyer encore plus fort dessus. Et ça, je trouve ça trop
c'est
cool.
C'est vrai qu'au Kalou, c'est assez.
Moi, ça m'inspire énormément.
Même si c'est
ce
pas la
d'approche.
Plus représentative, je trouve, de l'hyperpop. Souvent, on la qualifie d'hyperpop.
Non, mais c'est vrai qu'elle a un truc vraiment moderne. Pour le coup, dans
mais
un
voilà,
truc de.
Je parlais du courant hyperpop, hein, mais du coup, ce que tu vois, pour moi, un nouveau classique, c'est son dernier album. Je le trouve, j'espère en tout cas, qu'il va être timeless et que, voilà, c'est pas un revival d'un truc. Tu vois.
Non, mais quand c'est trop. Trop dans la modernité, ça t'enferme aussi en fait. Tu vois, par exemple, moi, je, à chaque fois, je pense à ça. C'est les prods de Timbaland à l'époque. C'était vachement novateur, machin, quand c'est sorti, genre, tu sais, les Missy Elliott et trucs dans les années 2000, début des années 2000. Moi, je le réécoute là. Pareil, le Justin Timberlake produit par Timbaland là et Pharrell. Putain, c'est dur, hein. Parce que justement, en fait, ils étaient tellement avec les potards à fond sur ouais, il faut faire un son de l'espace.
Non, mais ça,
les
c'est
gars,
vraiment le truc, la différence entre passé, moderne et intemporel. C'est vraiment ce que je disais.
Tu vois,
c'était moderne à l'époque et ça a mal vie. Alors que t'as des trucs de la même époque.
Et Justify, il est plus intemporel, tu trouves?
Bah, le bizarrement, premier. Ouais, parce qu'il fait plus acoustique
avec
sur certains trucs,
voilà.
Ouais,
mais tu vois. Voilà.
Alors que Timbaland, avec ses bruits de bouche, ses franchements, tout est là, tu fais ouais, mais en fait, ça, c'était ultra novateur. Et je sais que quand ce truc-là est sorti, mais tout le monde voulait un son à la Timbaland, en fait.
Bah ouais.
Tout le
monde. Parce que c'était cool, quoi.
Comme ça, ouais. Mais en fait, ça vit archi mal. Pareil pour l'album de Jay-Z, tu sais, Dirt Off My Shoulder, tous ces trucs-là. Ah putain, c'est dur.
Je pense pour faire un truc, pour faire un truc timeless, il faut avoir un peu de retenue. Toujours. Et,
ou alors il faudra que l'utilisation des outils modernes ça soit un gimmick, en fait. Faut que ça,
voilà,
faut qu'il y ait une logique,
ça, faut éviter le gimmick.
Voilà, c'est ça.
Voilà, t'as mis le doigt dessus. C'est exactement ça. Faut éviter le gimmick et faut pas exacerber
un morceau de 1997 qu'on pourrait
après tout ça, c'est impossible. Moi je les kiffe tous, hein, par contre. Attention, il y a pas un morceau que j'ai sorti que j'aime pas. Mais tu peux
mais
mettre
t'as les préférés.
Non, mais j'aime bien,
c'est pareil.
J'aime bien Teenage Dream parce que c'est un morceau qui a aucune structure, il évolue tout le temps.
Allez, bon,
très bon morceau.
Merci.
Tu vois, Max, tout à l'heure, disait qu'il voulait faire un morceau de funk et tout. Bah là, on arrive sur un morceau de funk. C'est les Bee Gees, tu vois, là, presque.
Enfin, bah ouais, mais ça, tu vois, nous, on l'a vu aussi comme un truc un peu plus hip-hop. Ouais. Tu vois,
ça genre, me rappelle l'époque Moby, tu vois.
Ouais, bah, moi, je suis un grand fan de Moby et Adrien encore plus. Donc, okay. je kiffe. Mais non, là, tu vois, c'était un peu pour nous aussi, un moment, on s'est chopé les MPC 2000. Et qu'on a commencé à faire. En fait, on a enregistré un gospel sur tout le morceau. Moi, j'ai une passion du gospel. C'est vraiment un truc que j'adore. Et ça, c'est vraiment. Damon Albarn qui m'a pas personnellement bien sûr, mais par sa musique en gros à travers Blur et Gorillaz, etc. C'était pas vraiment forcément tout le temps du gospel, mais en tout cas du cœur un peu aussi, des chœurs comme ça quoi, dans ce style là le gospel c'est vraiment spécial, parce que moi du coup j'ai appris, parce qu'on a rencontré un chœur gospel, à quel point c'était spécifique, il y avait vraiment il chante vraiment pour Dieu, et il y a cette âme là et moi je suis pas du tout religieux, mais je trouvais ça intéressant d'amener des gens qui étaient vraiment qui chantaient avec une sorte d'incarnation énorme, et en fait après de les faire passer dans une MPC et de voir ce qui se... Donc en fait on a ressemblé pour les tous les ah comme ça, et après ils chantent avec Adrien, et même tout le début en fait ils chuchotent, on les a fait chuchoter avec la voix d'Adrien un peu comme ça, et on a joué un peu avec tout ça, et ça c'était un truc que j'ai trop kiffé en fait. Déjà c'était une rencontre humaine de ouf, et j'ai trop kiffé amener un truc un peu plus spirituel et,
ouais,
et
d'aventure humaine
et d'aventure et avec un truc qui est une boucle qu'on a fait sur un piano et qu'on a bouclé, tu vois, avec une boîte, enfin une MPC, et après il y a une grosse batterie qui rentre justement, et à la fin ça part dans un truc plus
intéressant,
kids return entre guillemets, tu vois. Mais
on s'est pas mal arrêté sur des trucs qui vous ont marqué et tout. On les a cités deux fois, Max. T'as cité Tame Impala. Juste un peu ce que ça représente pour vous, Tame Impala, parce que justement on navigue entre plusieurs univers. On peut s'écouter un morceau pour ceux qui connaîtraient moins. Et ça a été une influence, par exemple, vous, pour votre musique. C'est un truc où vous êtes pris vraiment.
Moi, c'est pas une influence dans ma vie de tous les jours, parce que je sais pas pourquoi, mais par contre j'aime beaucoup. Et par contre, ça a été une énorme claque de live, parce que je les ai vus à Will of Green il y a, okay, je sais pas si t'y étais. Il y a 5 ans,
si,
et
oui,
vraiment,
oui,
putain, mais oui, vraiment, c'était une énorme claque. Et c'est non, mais en vrai, je te dis que c'est pas une influence, parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres groupes qui m'ont plus influencé, mais c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté et que j'écoute, et forcément, ça l'a été un peu.
Pourquoi
et
en live, c'est la claque? C'est quoi? C'est...
En fait, je crois que ce qui m'a impressionné, c'était la maîtrise. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé ça moderne dans un truc de. En fait, en termes de son.
Ça sonne de ouf.
C'était fou, en fait. En fait, c'est aussi con que ça, là, pour le coup. Tu vois, c'est vraiment genre. Comment ils ont fait, quoi, genre pour. Tu sais, la batterie, la voix, le truc et tout, c'est la basse, ça te prend, et en même temps c'est il y a rien d'agressif, et en même temps c'est
fort. J'enverrai un article si tu veux qui run down un peu comment ils ont fait le.
Ah bah
le
putain lancer. Grave.
Ah ouais, il y a un article qui explique.
Il y a un article.
Et lui m'a plus inspiré, et lui il me fascine ce gars, et m'a plus inspiré pour le coup dans son workflow.
Bah moi aussi.
Dans le côté faire tout dans une maison, ouais. Machin. Et
expliquez un peu pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi son workflow, comment il travaille, Tame Impala. Bah,
on sait pas parce que moi je le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression qu'il fait ça chez lui, et il a tous ses instruments plugués, il est tout seul, et il circule entre ses trucs, et il crée sa musique, il fait ses batteries, ses machins. Donc ça, je pense que c'est le truc qui toi t'inspire.
Bah ouais, c'est ça qui m'inspire parce que je fais.
Moi, c'est plus le côté.
Pareil, la force des choses, mais.
La vue. Le côté faire de la musique vraiment avec. Et nous, on a cette chance-là de faire nos albums dans les Pyrénées perdues, dans une pièce qui est vraiment en 360 sur la montagne.
Ok.
Et du coup, en fait, on a tout branché là-bas, on ramène tout le matos 3 mois par an, quoi. Et vraiment, on se pose là-bas et t'as les faucons qui passent, t'es que dans la montagne, y a personne, tu peux jouer hyper fort, hyper tard. Y a pas une contrainte, quoi. Et moi, c'est un truc, c'est nous, ça a créé le groupe, en fait, vraiment aussi, notre truc, tu vois. Regarde, Adrien disait tout le temps, mais en fait, ok, on dit qu'on fait pas de la musique devant les écrans, mais c'est vrai que c'est, nous, on fait de la musique devant une vue, quoi, tu vois. Il faut qu'on regarde des choses quand même au final aussi. Moi, c'est dans ce truc-là où Kevin Parker.
Toi, Max, toi, c'est pas du tout la même approche. Et justement, home studio,
ouais,
beaucoup non. Plus urbain.
C'est le mec qui fait
moi,
tout. Hein, mec
moi,
qui fait tout
moi j'ai pas le 360 sur la montagne avec la baie vitrée, mais par contre.
Bah, tu viendras, on t'invite.
Du coup, j'ai un peu l'autre côté. Merci, ouais, je suis trop chaud. J'ai plutôt l'autre côté de Kevin Parker où je suis tout seul en studio du début jusqu'à la fin. Et c'est là où je me retrouve en lui. C'est un peu. Réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui font ça aussi et qui font des choses aussi bien que lui, et donc que c'est possible. Donc c'est une inspiration dans ce sens-là. Je pense qu'on partage une obsession des sons de batterie, lui et moi, même si on se connaît pas.
C'est un truc de batteur devenu
producteur.
C'est
un truc de batteur et producteur, je pense ça, mais je pense que.
Pourquoi ça se ressent? Elles ont quoi ces batteries, ces drums à Tame Impala? Elles ont quoi de
particulier? Elles sont très très bien.
Mais c'est-à-dire au-delà de très très bien, est-ce qu'elles sont mixées très en avant?
Elles sont mixées très en avant. C'est une gestion assez mystique de la compression et de la saturation. C'est hyper bien fait. En même temps, tu sens que ça vient d'une batterie acoustique sans avoir un rendu complètement où t'as pas l'impression forcément d'être. Là, je parle des deux derniers albums. Hein, t'as pas forcément l'impression d'être dans la pièce, dans la batterie, alors que les deux premiers, c'est clairement le son de la pièce, un micro, enfin c'est type Beatles, genre un micro. Devant la batterie avec un snare, un kick et genre pff, tout à fond dans un DBX très,
très compressé, très saturé. Mais la suite, c'est justement, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est des batteries un peu impossibles et il arrive à garder ce grain rock alternatif et en même temps avoir des côtés boom bap quand on, dont on parlait tout à l'heure, ou des trucs plus funk mais un peu survitaminés. Et ça, c'est très intéressant, je trouve.
Il y a un morceau sur qu'on pourrait s'écouter de Tamim Pala.
Moi, mon album préféré, c'est pas l'album, je pense, le plus intéressant, parce que c'est celui avec la. Il y a Inner Speaker, c'est le premier.
Inner Speaker, c'est le premier.
J'adore. Et après, il y a celui avec. Voilà, Lone Reason, moi, celui que j'ai le plus écouté quand j'étais ado. Mais je pense que, en termes de prod, pour le coup, l'album vraiment le plus ouf, c'est Currents.
Currents, ouais. Bon, Let It Happen.
Ouais, ou de la Sign of the Better. C'est quand même. Bah vas-y, Let It Happen, si tu veux.
Moi je préfère la drum de Let It Happen.
Eh ben on peut s'écouter ça, c'est l'ouverture effectivement de l'album Currents en 2015, Tamim Pala, Let It Happen.
Motown, ouais. Putain de classique, mais t'es pas du tout dans la Motown et tout, tu vois, la manière dont ça sonne, tu dis waouh, ok, là on est en.
Il est sorti quand cet album, tu vois, ou pas
2015.
Et, et 2015, c'était à combien de temps, à 10 ans?
C'est à 10 ans,
ouais, ouais. C'est ça.
Et tu peux mettre la Sign of the Better de seconde ou pas?
Ouais.
Moi je m'en rappelle, ça c'est donc c'était un moment où pour le coup j'étais pas trop encore en mode à fond dans la prod.
Ok.
Et je comprenais pas ce qui se passait, je veux dire physiquement parlant en termes de fréquence, le moment où la basse elle rentre.
Ok, sur The Less I Know The Best.
J'ai compris après que c'est juste qu'il avait mis dans un ampli guitare et qu'après il a mis les deux quoi.
Okay.
Mais je comprenais pas et je veux bien que tu mettes. Ça pour le coup, c'est un truc qui m'a. J'adore le son de batterie moi de ce morceau.
Il y a un gros coup de bas puis après.
Non, en fait, c'est pas ça, j'ai compris ce qu'il a fait. Et il y a un truc que je comprenais pas et je me disais putain, et en fait, enfin oui, c'est, en gros c'est ça, mais il enregistre toujours, enfin souvent les basses dans un ampli guitare, un petit ampli guitare où il met un micro. Et en DI quoi aussi, enfin dans la préamp direct. Et en fait c'est ce truc vu qu'il fait ça chez lui, je pense. Tu vois, il s'est vraiment posé. C'est vraiment ce truc de. C'est ça vraiment. C'est enfin c'est pour le coup ce hook de prod est connu genre dans le monde entier. C'est un truc qui a fait kiffer tout le monde. Et c'est vraiment le côté où en fait au début il a juste la basse dans l'ampli guitare.
Ouais.
Donc un petit ampli guitare. Tu sens en plus qu'il a chez lui comme ça. Et après il allume la piste quoi, genre de la basse en fait quand ça part. Ouais. Et le nombre de gens qui ont essayé de faire ce truc en filtrant, en faisant des magouilles, ça marche jamais en fait, tu vois. Et en fait tout con. Et je pense que c'est vraiment ce truc de lui chez lui tout seul qui se tape des barres et qui essaye ça, tu vois. Et en live par exemple, ça c'est fou parce que comment ils arrivent à le faire. Je sais pas comment ils.
Ça me fait penser à, moi j'aime beaucoup aussi parfois ces choix au mix hyper radicaux pour vraiment mettre l'emphase sur un moment précis. Je sais pas si d'ailleurs c'est un titre un peu commun avec l'un des vôtres. Vous voyez ce morceau de Katy Perry, Teenage Dream?
Bien sûr.
Teenage Dream, ça va. Ouais. Comme notre morceau, énorme.
Exactement.
J'adore ce morceau.
Il est
génial.
Je vois, le mettre comme ça.
Et en fait, et quand le refrain arrive, je vous le mets. Incroyable.
Ah oui, ok, ouais.
Hop, c'est parti. Teenage Dream, Katy Perry.
Le son des guitares déjà est trop bien.
C'est vrai qu'il est cool le son des guitares. Samplé,
ouais, son de un coup de guitare direct samplé répété.
Et donc là, en fait, tout sonne hyper petit.
Ouais, et ça va
et
arriver.
Et quand le refrain arrive.
Ça, j'étais en boom. Et quand ça passait, j'étais comme un.
Et en fait, le choix est tellement radical parce qu'en fait, ça sonne tout petit avant. Ça pourrait, tu sais, être pas du tout radiophonique. Genre les gens qui mettent le morceau se dire putain, c'est tout cas, c'est pas cool. Et tout est mis pour attends, bah là, tu vas prendre le refrain dans la.
Il y a un truc psychoacoustique là-dedans justement, c'est qu'en fait, tu t'habitues à ce son tout petit et en fait tu rentres dans le morceau, tu dis ok bah c'est ça le morceau,
c'est ça.
Et d'un coup
Ouais, c'est et ouf. Je trouve ça incroyable. C'est un choix hyper radical pour de la pop ultra mainstream, tu vois.
Non, c'est ouf.
Sorti quand ça?
C'est une bonne question.
C'est, là, mais c'est marrant.
Clément, pas du tout convaincu.
Il y a un morceau dans notre album où, pareil, on a fait des. À la base, c'était un morceau où il tournait dans un truc un peu trop rock classique. Et on a, du coup, pareil, comme ça, en fait, on a fait des guitares. C'était un truc. Et on a samplé les guitares dans une MPC, pareil. Ouais. Ça m'a fait penser ce truc de. Là, tu vois, genre, en fait, c'est marrant ce côté. Genre, je sais pas s'ils ont mis ça. Il n'y a pas trop de grain pour le coup d'une MPC, mais le côté, ils prennent les guitares et. Et tu te dis quand même que c'est une guitare, mais il y a un truc, il y a un groove qui est kiffant.
Ouais, je comprends.
Complètement séquencé, ouais.
Bon, là, clairement, on est rentré dans le truc aussi très production. On voulait en discuter ça un peu. Parce qu'il y a cette idée que. Il y a des gens qui arrivent à allier côté production, côté artiste aussi, vraiment en solo et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de profils différents. Alors vous allez me dire, vous, comment vous le vivez? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Kids Return, vous avez bossé, alors par exemple, avec Adrien Gallo, ouais. Vous avez produit avec lui.
Bon,
pour Billy, pour Please, on les a aussi évoqués tout à l'heure.
Ouais, là, je fais l'album de Soko aussi.
Ok.
Je produis l'album de Soko, il y a plus de 10 titres.
Ok.
Voilà, c'est un peu les trucs là qu'on a fait, ouais. En plus de nous.
Toi, Max, pareil, t'as aussi pas mal d'expérience. T'as produit l'album Census pour Mad, je connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça hyper bien.
J'ai pas écouté non plus.
J'en ai fait deux dessus.
Ok.
Moi, j'ai participé,
ah, c'est pas tout l'album, pardon, c'est deux
morceaux.
Ouais,
j'en ai participé.
Bon, t'as aussi bossé sur le dernier album de Clara Luciani, mon sang. T'as produit aussi, alors là, c'est assez stylé, parce qu'en plus, avec les anglo-saxons, il faudra que tu nous dises peut-être comment la connexion s'est faite pour un morceau pour Drug Dealer et Waste Blood.
Mm-hmm. Ah oui, il est trop bien le morceau.
Ouais,
merci.
On peut s'écouter ça, Real Thing, effectivement. Et là, en plus, ça commence.
C'est marrant l'histoire.
Waste Blood, ça commence à être un truc, tu vois, qui stream déjà dans le monde entier, tu vois. C'est, ouais, raconte comment ça s'est fait cette
surtout
connexion.
Surtout c'est bien en fait aussi. Oui. Au-delà de ça, c'est vraiment genre une meuf moi que j'écoute et je me dis putain, c'est vraiment la, tu vois, c'est marrant dans ce truc intemporel parce que est-ce que c'est moderne ou pas, je sais pas. Ouais. En fait dans l'idée, mais en vrai on s'en fout, c'est juste bien quoi.
Mais ça
en fait,
l'est aussi.
Elle a une voix de ouf et moi je trouve ça moderne. Ouais. Tu vois, mais dans ce truc de genre elle a pas forcément le son moderne mais c'est charmé ce qu'elle fait.
Tu sais quoi, on s'écoute un extrait de Sing rapidos comme ça on voit de quoi on parle. Like a dream that you soon forgot. Then you left me high and dry to watch it crumble. It happened fast, like our world had to tumble and crash. Seasons change and your love. Dazesque, ça, non? C'est bien ta
classe,
ça.
Ouais, une vibe un peu mamacasse, tu sais, des trucs des années 70, là.
C'est complètement 70s pour le coup. Ouais. Quand j'écoute la drum, je me dis, oh, wow, j'entends ma pièce, et vraiment, je vois le micro que j'avais mis, c'est un M160 de BR Dynamics, un tout petit ruban, et vraiment, sur le break de Tom, j'entends exactement ce que je dis. Et en fait, le truc, c'est que ça s'est passé hyper vite. En gros, j'ai rencontré Michael, donc Drug Dealer, au détour d'une soirée via Kirin Jekalinen et
avec qui t'as déjà bossé aussi.
Avec qui j'ai déjà bossé aussi. Et en fait, on s'est dit, allez, vas-y, on va au studio. Donc, on est allé au studio, il était tard, hein, il était 23h, minuit, un truc comme ça. On a commencé à délirer dans le studio, à faire un peu n'importe quoi, des trucs cool, des trucs moins cool. Toujours ce qui se passe quand on est avec Kirin, on fait des. Voilà, des choses. on expérimente. Et donc là, on est à deux doigts de partir. Et en fait, Michael se met au piano. Et il joue le début d'un truc. Et il me dit, Max, je suis bloqué sur ce truc depuis genre un an. Je sais pas où l'emmener. Je dis, rejoue-le-moi. Et il me joue un truc que je trouve trop bien. Donc c'est le truc, les accords du début du morceau. Il me dit, je veux vraiment que ça lift sur le refrain, etc. Je fais, ok, vas-y, peut-être que j'ai une idée et tout. Donc, je joue le truc et donc je me mets derrière lui et je m'apprête à jouer la suite que j'avais dans la tête, du coup. Donc, il joue son truc et il finit la mesure. Et moi, j'attaque, euh,
ce que j'avais en tête. Et il s'est levé, il a fait wow, il m'a mis un énorme coup de coude dans la gueule. Énorme coup de coude. Donc ça fait hyper mal, mais du coup il a fait that's it, that's it. Et donc bon, ça valait le coup de coude, ouais. Mais et du coup c'est resté. Donc on devait partir finalement, on est resté une heure de plus au studio. Il m'a dit est-ce qu'on peut l'enregistrer tout de suite. Je dis bah ouais, ok, vas-y. Donc je suis allé très vite à la batterie, j'ai joué très vite la ligne de basse. Il a enregistré son piano. J'ai fait quelques guitares acoustiques sur le refrain. On voulait un orgue, mais on a mis un Juno type orgue sur le refrain. Et en fait, ça a quasi pas bougé depuis.
C'est ouf.
Depuis la fin. Et
qui a mixé le titre ? Tu sais ou pas ?
Non, je sais plus. Mais en gros, voilà. Donc, on avait cet instru qui était super cool. Et en partant du studio, il me dit ce serait cool que Nathalie chante dessus. Nathalie, donc Wayez Blood. J'ai dit ouais, c'est ça, trop bien. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais, ça serait cool. Ouais. Et franchement, genre un an quasi se passe et très peu de nouvelles. Michael est très très mauvais avec les textos. Et donc rien à voir, je vais voir Wayez Blood en concert pendant le Pitchfork en novembre 2022 ou un truc comme ça, ou 23, je sais plus. À la salle Playel, et je suis invité par un autre pote, enfin vraiment rien à voir avec lui. Et donc j'ai eu des passes backstage pour aller la voir, donc j'étais super content. J'étais très stressé aussi parce que c'est une idole pour moi, quoi. Et il y avait personne qui attendait backstage, c'était très bizarre, à part les gens du label de Sub Pop que je connaissais très brièvement parce que j'ai produit un autre album pour Hannah Jadagou. Et elles sont sur le même label. Bref, et là elle sort en trench beige et elle me pointe du doigt et elle dit Are you Max baby? Et moi je panique à bord. Je dis oui, mais comment tu me connais? Enfin genre elle a pas regardé la liste des invités, tu vois. Je me suis dit il y a aucun moyen qu'elle me connaisse. Et elle m'a dit non. Ouais, I'm gonna sing on your track with Michael. Je fais quoi? Que non, tu dois faire erreur sur la personne et tout. Mais si, le truc que t'as fait avec Michael, Drug Dealer, tu le connais, vous avez fait un morceau ensemble. Je fais bah ouais. Elle me dit t'es pas au courant? Je dis bah non. Elle me dit attends, on lui envoie une photo. Et on a pris un selfie, elle a envoyé ça à Michael. Dans la minute après, je recevais un message de Drug Dealer qui me disait oh Max, sorry, ouais, I've been meaning to tell you. Ouais. Et le mec, il savait depuis des mois en fait, il m'avait pas dit, tu vois.
Mythique. Mais donc, tant mieux qu'il te l'ait pas dit.
Ouais, mais meilleure cool. Soirée du coup j'ai passé, quoi. c'était fou et ça a pris un temps fou par contre à terminer le morceau, tu vois. C'était je te parle de ça, on a mis 2 ans là, bah, entre sa tournée à elle et la fin du mix.
Ça sent, c'est sorti là en mai dernier,
quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça a mis hyper longtemps, mais sans.
Mais t'as refait des trucs ou
sans regret? Non, moi j'ai rien
gardé
refait
des trucs. Ouais,
c'est
de la session,
l'heure passée ensemble, quoi.
Ok. Ah, c'est ouf.
On comprend que chez Max, c'est le côté producteur, il est hyper présent. Vous, comme il y a 2 albums avec Kid Return, Max il a un EP, j'imagine qu'il y a d'autres projets qui vont venir, mais vous n'êtes pas exactement au même moment de vos carrières. Ce côté producteur, c'est un truc que vous aimez faire, les Kid Return, enfin surtout toi, on l'a compris, hein, mais avant tout vous concentrez sur votre projet solo. Est-ce que parfois il y a une petite friction entre les deux?
Non, il y a pas de friction parce qu'on parle beaucoup, mais moi j'aime vraiment ça profondément. Adri, il aime ça quand ça le concerne directement, et ce que je comprends complètement, et c'est vraiment ce truc de plus presque artiste vraiment profond. Mais du coup, en fait, non, c'est des discussions qu'on a eues, parce que moi à un moment je me suis dit j'ai quand même envie d'essayer aussi d'autres choses, mais dans un truc où Kids Return c'est ma vie et c'est ce que je veux faire vraiment, mais j'aime rencontrer des gens, apprendre et essayer des choses et faire de la musique aussi un peu différente, et lui il le comprend complètement, et là on a eu pas mal de projets ces derniers temps. Il s'est concentré sur des choses plus de où il fallait composer et livrer des partitions, quoi, en gros. Et moi il fallait plus que je livre des chansons. Et ça a très bien marché comme ça. Il y a des moments, on a le truc où on est en mode bon, bah, allez, maintenant c'est le moment où on se retrouve et on break tout. Et donc là, je sais que j'ai un mois intense de production parce que je suis en train de finir 2 disques. Et après, on retourne pour faire l'album 3 et on a fait une réédition aussi là. Mais on a ce truc où moi j'aime profondément ça. En plus, je suis vraiment un geek de du matos, de comment les choses sont faites, des histoires des disques. Et j'adore en fait faire des chansons avec des gens. C'est un truc que j'aime vraiment profondément. Donc voilà, j'ai, moi, j'ai,
c'est partie
j'ai...
de la vie de musicien pour toi de...
Ouais, en fait, en tout cas, ça fait partie de ma vie. Après, je sais pas, je pense qu'il y a, il y a vraiment des gens qui peuvent pas le faire. Lui, il a essayé, au début, on le faisait vachement ensemble avec Adrien, et puis il s'est rendu compte, parce qu'il est intelligent, quoi, que juste, en fait, lui, ce qu'il préférait faire, c'était écrire de la musique pour son groupe et penser à la DA et avancer comme ça. Là où moi, c'est vraiment ce qui... Si j'avais pas ça, je serais pas bien. Hein. Donc je pourrais pas faire ce que je fais là. Mais c'est presque un luxe d'être à deux, de genre, bah, moi je sais et je te fais tellement confiance que tu fais avancer ça. Et moi, pendant ce temps, je fais avancer d'autres choses qui, en fait, lui, ça l'arrange aussi que je progresse à ce niveau-là, que genre, on rencontre des gens et qu'on s'ouvre pour après se retrouver, faire encore un truc qui avance et écrire un peu notre histoire à nous, tu vois.
Et c'est tout bénef pour lui. Vous avez pas besoin de payer un autre producteur.
Voilà, c'est ça. Et encore, on se pose la question. Non, mais voilà, c'est bon. Non, mais c'est vrai que ça nous a. En fait, tu vois, moi, là, je te parle vraiment aussi de l'album que j'ai fait avec. L'album que j'ai fait avec. Pas mal. Je kifferais, moi. L'album que j'ai fait avec Soko. Enfin, qu'on fait là. Moi, j'ai rencontré des gens. En fait, je me suis retrouvé en studio avec Phineas. Tu vois, qui a fait Billie Eilish. Il est venu dans ma pièce de 10 mètres carrés, là. Et on a fait deux titres ensemble. Et c'était ouf. J'ai fait deux titres avec les. Il y a deux titres avec les gars de MGMT où, genre, moi, c'était un truc où, genre, c'est mon groupe préféré, tu vois, en gros. Et voilà, il y a Ben Harper qui est venu. On a fait trois morceaux avec Ben Harper. Il est venu à notre concert à l'Olympia. C'était trop cool. Genre, on a grosse connexion avec lui. Et il y a les gars de Parcells qui sont. Enfin, tu vois, genre, d'un coup, je me suis retrouvé à dealer avec des gars qui ont des carrières et qui font des trucs que je kiffe trop. Et moi, à dire ce que j'en pense. Et en fait, à me mettre dans un niveau aussi que je connaissais pas forcément avant. Et ça, c'est Soko qui m'a permis ce truc-là. Et cette ouverture-là. Et ce qui m'a fait kiffer, c'est de me rendre compte que j'étais prêt, que j'étais prêt à, en fait, mais comme t'es prêt juste à évoluer dans ta vie et tout ça. Et ça, Adri, il kiffe trop. Tu vois, quand il y a genre un peu des gars qui kiffent, ils passent. On se prend un café, machin. Et après, quand il s'agit de Rec, il est. En vrai, il dit tout. Moi, je lui montre tout ce que je fais, tout merde. J'ai besoin qu'il me valide. Parce que c'est le mec en qui je crois le plus, enfin en qui j'ai le plus confiance, c'est un peu mon repère.
T'es le Paul McCartney de son John Lennon.
Peut-être. Même s'il est vraiment fan de Maca au niveau lui.
Ça me rappelle un peu de loin cette relation. Quoi.
Non, mais on a vraiment un truc comme ça.
J'espère qu'elle est un poil plus apaisée.
Elle est apaisée. Non, mais voilà.
Assez apaisée quand même.
Donc moi, je kiffe produire. En gros, pour finir, je kiffe produire. Mais
parce que ça nourrit le groupe après, du coup.
C'est ça. En fait, c'est quand même, il y a une sorte de finalité à ça. Je pense que je vois des gens qui se perdent dans un. Je pense que c'est pour ça, Max, aussi, que t'as eu besoin de faire ton projet à toi, vraiment, quoi. Je pense que tu peux te perdre, en fait, quand tu produis tout le temps disques. Ouais. Je pourrais pas faire ça non plus de ma vie, genre que ça.
Je suis complètement d'accord avec ça, ouais.
Tu poses la bonne question, d'ailleurs, Max, parce que. Tu vois, sans trahir de grands secrets, t'es dans ta jeune trentaine, mais quand même dans ta trentaine. T'es pas encore identifié comme artiste solo pur. Mais. En tant que producteur, t'es déjà plutôt bien placé. Est-ce qu'il y a ce truc justement où tu te dis un peu, il y a une espèce d'urgence de dire, nous là, non, il faut que je revienne à mes trucs solo, à ce que j'ai envie de proposer artistiquement. Il y a un peu ce truc comme ça chez toi où, après tout, c'est deux vies parallèles et ça te va de les mener en parallèle.
Alors, il y a eu une urgence, c'est sûr. En fait, j'ai toujours continué à faire des morceaux pour moi. Juste à un moment, je me suis dit, là, c'est ça, quoi. Il faut que ça sorte. J'ai eu la chance de trouver les partenaires qu'il fallait pour justement sortir ça bien. Et vu ce qui se passe, alors à ma petite échelle, mais je vois les retours et une certaine effervescence qui se passe, et que ce soit en France ou surtout à l'international, ou plutôt, enfin, déjà en Europe et un peu aux États-Unis. Je me dis, ok, c'est peut-être pas le moment de me lancer sur un gros album à produire sur quelqu'un d'autre. Donc là, je me concentre là-dessus parce que je sens qu'il se passe quelque chose. Et donc, finalement, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Donc là, ouais, clairement, ma priorité, c'est mon projet perso. J'essaie que ce soit pas au détriment de la casquette de producteur, parce que, comme disait Clément, moi, ça me nourrit énormément et j'adore faire ça.
Y compris aussi concrètement te nourrir, ça te permet de vivre aussi financièrement.
Voilà, c'est vrai que mes années où je fais que de la prod, je vis un peu mieux que quand je fais que mon projet solo. mais bon, on s'en fout, en fait. Là, tu vois, là, j'ai passé une semaine à dormir au studio, du coup, sur un matelas dépliable, et j'ai acheté juste deux sachets de pâtes, trois gousses d'ail. Non, mais sans déconner, c'est la vérité. De l'huile d'olive, du parmesan et des tomates cerises, et je me suis nourri là-dessus toute la semaine parce qu'il faut que je fasse des économies, histoire vraie. Et je m'en fous, en fait. C'est trop bien, parce que quand je vois la tournée, en fait, on a annoncé une certaines tournées en fait que je vois que Edouard m'appelle tous les deux jours en me disant ah il y a cette date, ce festival qui s'est rajouté, ce truc qui s'est rajouté. Edouard c'est mon manager chez Savoir Faire qui est exceptionnel et qui est là.
Qui est là.
C'est en fait c'est toutes les semaines qu'il y a des bonnes nouvelles en ce moment donc c'est
incroyable quand ça veut dire ça, c'est trop bien.
Ouais, c'est fou quoi. Enfin c'est ça veut dire un truc, tu vois, les premiers radio play, les premières énormes playlists aux États-Unis, enfin tous ces trucs là, ça me fait me dire que bah c'est pas le moment de lâcher. Et puis en fait, on est dans un monde, vous le savez encore mieux que moi, c'est que ça va trop vite. Donc si tu relâches un tout petit peu ta présence, aussi petite soit-elle, mais rien qu'au sein de ta propre niche, les gens...
Ouais, tu sais d'exister. Quoi.
Voilà. Mmh. Et en fait, faut... Expression à l'ancienne, mais battre le fer tant qu'il est chaud. Mmh. Et là, du coup, là, on prévoit de battre le fer et de le garder chaud pendant longtemps. Donc...
On avait reçu dans un épisode, on avait reçu Céron, qui nous avait raconté que toute sa vie, il était sur le quai du train, prêt à le prendre à tout moment. C'est-à-dire, quand il y a un train qui passe, il le prend. Il reste sur le quai, il attend. C'est un peu ce que tu racontes, avec l'histoire de battre le fer quand il est encore chaud. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, il faut les saisir.
Moi, ça fait 2 ans que je prévois des vacances que je prends pas, du coup. Là, rien que ce week-end, je devais partir à la campagne et je suis là, ah, bah, non. Désolé. J'ai trop de trucs à faire, mais c'est génial parce que c'est. C'est ce que j'ai. C'est la vie que je voulais. Donc.
Ah ouais. Très bien.
Il y a. Parce que tous les deux, vous avez commencé assez jeune, vous aviez plein de rêves de musique et tout, puis après vous êtes confronté à une forme de réalité. C'est un métier en fait, être musicien, travailler dans la musique, quoi. Y compris avec des aspects peut-être un peu moins glorieux ou auxquels on s'attend pas forcément, qu'on connaît pas encore. Globalement, vous avez l'impression de naviguer avec aisance dans le milieu de la musique. Ça se passe bien. Vous trouvez qu'il y a aussi des trucs un peu difficiles parfois?
Alors moi, j'ai galéré pendant des années, pour le coup. Ouais. Moi, je viens d'un bled de campagne, vraiment, avec zéro connexion dans le monde de la musique, vraiment genre inexistant. Personne faisait de la musique dans ma famille, d'ailleurs. Je sais pas trop comment c'est venu, mais apparemment, je tapais sur des boîtes de gâteaux chez ma grand-mère, et ma mère m'a dit, bon, bah vas-y.
Allez, batterie.
Voilà, batterie, allez, c'est parti. Mais si, ma mère avait essayé de jouer, enfin avait appris à jouer du piano et essayé de me jouer du Bach quand j'étais dans son ventre, les basiques, hein, pas la polyrythmie et tout ça, quoi. Mais donc ouais, ça a été plus compliqué parce que déjà très peu de culture musicale dans mon entourage, à part celle de ma mère. Donc moi j'ai grandi avec Supertramp, Michael Jackson, Stevie Wonder et ce genre de trucs. Très peu de rock en fait finalement. Mm. Le rock je l'ai connu au skatepark avec mes potes, donc on écoutait Slipknot, Sum 41, les trucs, c'est Blink-182 et tout. Et puis finalement, au fur et à mesure, à force de diguer, j'ai découvert les Strokes, les Arctic Monkeys, etc. Ce qui m'a beaucoup plus plu que Blink-182 et Sum 41, même si je renie pas, hein, mais c'est que c'était quand même genre, c'était autre chose. Et après, j'ai fait le chemin inverse, je suis retourné vers les 70s en fait. Ouais. Donc c'était un parcours qui a été beaucoup beaucoup plus long pour moi et quand je suis arrivé à Paris, c'était mes premières claques de ah ouais, en fait là il y a des musiciens qui sont sérieux. Donc je traînais je passais mon temps à traîner rue de Douai dans les magasins de guitare et à essayer de rencontrer.
T'es venu pour la musique?
Ouais, en fait j'ai fait des études de direction artistique, de graphisme. Mais en fait, dès que j'avais du temps libre, j'allais rue de... Ça tombait bien parce que mon école était place de Clichy, donc c'était juste à côté. Mmh. Et donc, sorti de l'école, j'allais dans la rue de Pigalle, puis je me suis fait pote avec des vendeurs de guitares, quoi. Mmh. Et donc, j'essayais des guitares, j'en achetais jamais. Mais et du coup, il y avait des gens qui passaient, je rencontrais des gens comme ça dans la musique. Enfin, vraiment. Et le premier concert que j'ai fait à Paris, c'est un mec qui est rentré dans le magasin de guitare, qui m'a entendu jouer, il m'a dit t'as un groupe et tout, tu joues bien, est-ce que j'organise un concert. C'était au Hall's Beer Tavern, rue Saint-Denis, et il m'a programmé dans un pub, quoi, dans un Guinness pub.
C'est improbable qu'il t'ait fait confiance comme ça.
Ouais, et du coup, c'est devenu un pote, Anaël. Et vraiment, enfin, la route a été très, 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 très longue. Jusqu'à, tu sais, genre, on a fait tous les trucs les Emergenza, les concerts au Gibus, etc. Enfin, genre.
T'es un peu plus serein depuis combien de temps, tu dirais? C'est un bien grand mot, serein. On n'est jamais complètement arrivé, hein, mais ça se passe. Disons que t'as l'impression que t'es sur les bons rails depuis combien de temps?
Je dirais que ça fait. Quand j'ai rencontré Savoir Faire, en fait. c'est j'ai eu l'impression de trouver ma famille, tu vois. Genre c'est un artiste, il est jamais seul, ça c'est sûr. Et son entourage fait énormément, que ce soit culturellement, que ce soit au niveau de l'inspiration et que ce soit dans le développement de sa carrière. C'est un artiste, il est jamais seul. Et j'ai été très mal entouré au début. Donc j'ai signé des premiers contrats de management où on m'a volé plus de 10 000 balles de thunes. Alors que t'imagines qu'à l'époque, je générais pas beaucoup avec mon premier groupe et tout. Genre, carrément, un jour, le label où on avait signé à Londres m'a appelé en me disant « Ah bah, bonne chance pour le clip ». Quel clip? On ne tournait pas le clip. Ah bon, bah ton manager, il a pris la thune.
Ah putain, ah ouais.
Je peux te dire qu'on l'a viré dans la seconde, etc. Mais bon, bref, pour te dire d'où je viens, quoi. Et non, quand j'ai rencontré Savoir-Faire, j'ai eu enfin l'impression de pouvoir réellement en faire une carrière. Et donc finalement, c'est assez récent.
Donc, ça fait 6 mois, voilà.
ça fait 4-5 ans, le temps de faire de la prod et puis me mettre sur le projet solo. Ça fait à peu près 2 ans que, tu vois, là, ça fait un an que c'est sorti, donc j'ai commencé à le faire un an avant. Et voilà, c'est 3 ans de production, de construction de production, parce que finalement, les gens, ils n'ont pas trop entendu parler de moi avant il y a 3 ans, je dirais, maximum. Et voilà.
Ouais, très intéressant.
Et voilà.
Max a vachement insisté sur le côté entourage et tout. Vous, alors ça a été un parcours, j'ai l'impression, quand même un tout petit peu plus simple, peut-être un peu plus naturel. Ça, c'est pas, mais...
Oui, c'est plus simple dans le sens où moi, c'est vrai que j'ai grandi à Paris. Donc déjà, ça, c'est sûr que.
Ça change les choses, hein.
Ça change les choses. Et avec des parents qui n'étaient pas relous, je dis pas du tout que les tirs étaient, mais je veux dire, en tout cas, par rapport à des potes à moi qui faisaient de la musique et qui avaient des parents qui voulaient pas.
Non, mes parents n'étaient pas relous du tout.
Oui, c'est ça. Non, donc non, je suis sûr. Mais je veux dire, par rapport, j'ai des potes où vraiment, les parents voulaient pas que leurs enfants fassent de la musique. Moi, ils m'ont toujours dit, ok, vas-y. Par contre, c'est sérieux. Et si tu le fais vraiment bien et tu nous prouves vraiment que t'as envie de le faire. Moi, je détestais l'école. Je kiffais pas du tout. Par contre, j'ai adoré parce que c'est en fait, j'étais dans une école où je me suis fait virer parce que je faisais des conneries et je me suis retrouvé dans une autre école où j'ai rencontré Adrien. Et en fait, on était ensemble avec.
Rock.
Adrien,
c'est vrai que ça c'est vrai.
Adrien,
origin story
et un gars qui s'appelle Lewis Hoffman. Je sais pas
ouais,
si.
Oui, bien sûr.
En fait, on était tous ensemble. Adrien et Lewis, ils avaient un groupe. Moi, j'avais un autre groupe et machin. Et en gros, après, ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, j'avais quand même ce truc dont on mettait un peu une pression. Donc voilà, faut que tu montres. Et je sais pas pourquoi j'ai complexé longtemps dans ma vie le côté artiste. Vu que je faisais de la batterie dans un groupe, j'étais en mode machin. Donc je me suis dit, ok, je vais monter un label. Et donc en fait, au lycée, j'ai monté un label. Et j'ai sorti le premier disque de Lewis avec un label qu'on a créé avec des potes, un collectif qui s'appelait Cactus Club. On bossait avec Pain Surprise et tout, donc j'avais 17 ans. Et j'ai sorti le premier disque de Lewis, là, le disque rose avec le caddie, avec Flash et tout, tous les morceaux. Et au contraire, je faisais mon groupe et tout, tu vois.
Aujourd'hui, il bosse avec nos amis de Record Makers, non
Lewis. Il a fait un morceau avec eux, genre Tristesse Contemporaine, je crois. Okay. Mais il fait son truc et ça cartonne surtout. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé dans un truc, par contre, j'étais très vénère. Je me rappelle des potes qui me disaient, mais je te voyais, j'étais très vénère, je voulais vraiment faire des choses. Même le premier groupe que j'ai fait, j'ai booké une date avant même qu'on avait un grand nombre de groupes, des morceaux. Enfin, j'ai toujours été un peu ce gars-là et c'est un peu dernièrement que je me suis un peu chillé et que j'ai essayé de me concentrer plus sur les.
T'avais le côté, c'est un bien grand mot, mais entrepreneur entre guillemets.
Bah dans le biopic, j'étais un peu le pote qui était batteur manager, quoi, tu vois. Ouais. J'étais un peu genre, allez, on va. Tu sais, on jouait un peu dans des clubs à Pigalle, on avait 14 ans, nos potes pouvaient pas rentrer en fait, parce qu'ils étaient pas majeurs. Et donc, on jouait devant genre personne, et tous nos potes attendaient devant. Et genre, on était en mode, ok, bah c'était trop cool et tout le monde disait, bah c'était comment et tout. Enfin, c'était vraiment sale mood, quoi. On devait devant 3 gars qui buvaient des bières, et on faisait notre concert à fond.
Plein d'intros sur le biopic. Non, mais la queue des potes qui peuvent pas rentrer, les
un peu sale. Mais après c'est vrai que voilà, et j'ai eu la chance de faire des du coup, vu que j'étais un peu dans un mood comme ça, de faire des rencontres kiffantes. Et très vite en fait j'ai compris le côté t'as ton groupe, tu donnes tout pour ça, mais fais des choses à côté. Et en fait j'ai fait beaucoup de musique de librairie et d'habillage de chaîne, etc. Okay. Qui m'ont permis en fait d'être indépendant et de gagner des sous pour en fait les, parce que nous on est indépendant, on a créé notre label avec Is Return et on est en licence avec un autre label et en distrib. Et en gros, du coup, nous, c'était important de vraiment produire le plus possible, même si on est endetté de partout. Je rassure quand même, c'est pas non plus. Si tu veux commerce, si tu veux gagner de l'argent, faut pas faire de la musique, ça c'est sûr. Mais il y a quand même
la
ce truc.
De pub.
Voilà. Non, mais il y a ce truc.
Pour ça,
en fait,
je vais dire très très smart.
Mais
en fait,
fonds,
tu vois, c'est, j'avais déjà ce truc-là à 17 ans de genre, vas-y, je me mets un peu dans ça. Et j'ai mis mes potes dans ça avec moi. Et en fait, aujourd'hui, on a un truc comme ça, un peu kiffant, de... mais qu'on kiffe faire. Hein. C'est que des projets en plus qui sont hyper cool à faire. Tu sais, on s'est retrouvé à faire un habillage de chaîne à moteur basse, full live. Tu vois, genre, ça joue live.
Le truc au sport, là.
Ouais. Tu vois, et ça joue live. Et tu regardes le tennis. Et en fait, t'as. Et t'es en mode genre mal. Et en fait, c'est.
Non, Eurosport, ils ont les thunes pour payer ça.
Bah ouais, après. Ouais. Non, mais c'est surtout. C'est, faut pas se dire ça. Faut plutôt se dire. Parce que tout le monde. Il y a des chaînes qui ont 10 fois plus de thunes qu'eux.
Bien sûr.
Et qui feront pas le face à ça. Tu vois, c'est plutôt. Ils ont, pour eux, c'est important. Et en fait, moi, je pense que. Je suis fan de Toumer des albums de librairie musicale. Tu vois, vraiment de télémusique à l'époque. Où en fait, tout ce qui sortait, c'était toujours bien. Tu vois. Et il y a un truc comme ça où genre. Quand tu fais un truc, faut le faire bien et faut le faire à fond. Et c'était un peu ce truc-là, quoi, que j'avais. Mais du coup, j'ai continué dans ce truc-là et c'est fait un peu depuis genre quoi, là, un an que je commence un peu plus à tu vois, je pense que j'ai eu besoin de faire une cigale, enfin de faire une marocaine, faire une cigale. Et quand on a fait l'Olympia, tu vois, il y a 5 mois, là, j'ai eu un peu ce truc après de genre, tu sais, je suis sorti, genre, j'ai chialé, j'étais dans mon truc et tout, et j'ai fait ok, c'est bon, ah, ça, j'ai fait. Et maintenant, concentre-toi vraiment sur les choses belles, les choses kiffantes, les choses cool et fais vraiment, oublie pas que c'est un truc, un métier de passion et d'amour, tu vois. Quand même,
et
à la base.
Les parents, alors, du coup, ils ont dit c'est bien.
Et les parents, ils étaient contents. Et c'est pas, ils disent pas tout le temps qu'ils sont fiers, tu vois, mais genre, ils sont, ils étaient là, je les ai vus jouer, ils étaient au balcon, tu vois, on les avait mis là, avec les parents de mon pote et tout ça. Et il y a eu un truc un peu à la fin, genre, en fait, l'Olympia, en plus, il y a un truc un peu mystique, t'arrives, t'as les lettres en gros.
Ouais.
Tu vas dans les loges et tout, donc après tu vois un peu le champagne derrière avec les parents et tout. Il y a un peu un truc où, genre, je me rappelle, enfin, tu vois, c'est des jours, tu te rappelles un peu toute ta vie et t'es en mode. Donc là, ah, c'est sûr qu'ils me font plus chier là. Même s'ils me faisaient pas chier, là c'est ok quoi.
Tu disais bon, que c'est jamais complètement assuré. On fait pas de la musique si on veut gagner de l'argent.
Ah, ça c'est sûr. Je connais personne qui me dit j'ai envie de m'acheter une maison et tout, vas-y, allez, je vais me lancer, je vais faire un disque. Tu sais, c'est genre tu fais un disque, ça te coûte une maison, et après t'es en mode bon, alors maintenant déjà faut que je le rembourse, et après comment je fais pour tu vois, c'est...
Alors la logique c'est quoi, c'est on se dit, alors déjà il peut y avoir peut-être l'intermittent, je sais pas si vous êtes tous
bah c'est sûr
intermittent.
Ouais. Ça c'était le premier gros step.
Ouais.
T'es en mode, clair,
tu dis ok,
moi,
bon,
j'ai tourné à tout le monde dès que j'ai l'intermittent, qui m'a dit plus rien, mais j'étais là waouh, j'ai un salaire,
bah ça c'est
pour
fou,
la première fois de ma vie.
Et après il y a un truc que j'ai capté aussi, c'est en fait, il y a la SACEM en France, donc il y a les droits d'auteur quoi qui tombent tous les 3 mois. Et en fait, à quel point, même si tu fais peu à chaque fois, mais partout tout le temps, en fait à la fin il y a un truc qui se passe et tu crées une sorte de patrimoine, tu vois, entre guillemets, de ce qui est toi. Et ça c'est un truc que, du coup, nous,
quand
on
tu
est...
dis pardon partout tout le temps, etc., c'est parce que il y a évidemment vos compos avec Kids Return.
Ouais,
mais
bah,
y a aussi
on a fait des
beaux
films, de la musique de documentaire, on a fait. Tu vois, là par exemple, il y a une installation. Typiquement, quand moi j'étais en train de produire deux disques, là, Adrien, on nous a appelé pour faire un projet Hermès. Mais tu vois, on n'aurait pas forcément accepté comme ça. Mais le projet était fou parce que c'était un truc dans une géode en 360, sonorisé de partout. Et il fallait composer 25 minutes de musique sur de l'animation. C'était un énorme truc, tu vois. Et ça, il l'a fait. On l'a signé à deux. Et en fait, nous, on partage tout. Et tout ce qu'on fait, on partage à deux. Quand je vais récupérer des arrangements sur des disques, on partage à deux, etc. Et en fait, à la fin, quand tu fais des trucs comme ça, et bah, à la SACEM, il y a des petits trucs qui arrivent, des trucs de plus en plus. Et c'est encourageant. Et tu vois, il faut continuer quoi. C'est un truc.
Max, ça fait un truc pour Chanel, toi, si tu dis pas de bêtises.
Oui, c'est avec la sœur de Clara d'ailleurs.
Ok. C'est l'un des.
Chanel et Hermès alors, d'accord.
Ouais, ouais, parce qu'en fait, il faut le dire, c'est l'un des milieux où il y a du fric en fait. Et quand t'es musicien, potentiellement, il y a quelques plans intéressants. Alors, faut être sur les plans, mais
après, il y a tout de suite, moi, le truc de Chanel, j'ai pas gagné grand chose. Ouais, non.
Ah merde.
Ouais.
Ok, bon, on a rien dit alors.
T'as peut-être mal dealé. Mais
déjà, c'était une OP de reprise de Amanda Lear. Donc du coup, les droits d'auteur.
Ouais.
J'ai pris un petit cachet de producteur et je sais même pas si.
Mais c'est sûr que oui, il y a de l'argent dans ça.
Oui.
Et ça, tu peux pas dire le contraire. C'est quand nous, le concert où j'ai gagné le plus d'argent de ma vie, c'est quand Saint Laurent nous a appelé pour faire un concert et.
Ah, Saint Laurent aussi.
Ouais. Okay. Bah c'est quand tu fais du rock, hein. Après les gens, c'est vrai, faut faire du rock quoi. Non, mais c'est vrai que quand Saint-Laurent nous
moi,
a
je vais faire
Renaud
la semaine prochaine, c'est un peu moins.
Ah ouais.
c'est un peu moins fâché.
Mais ça c'est vénère aussi, hein.
Attends, Renaud le chanteur ou Renaud la voiture?
Renaud la voiture.
OK.
Un concert dans leur nouveau truc. Ouais. Bon,
bah, c'est bien. Ça, c'est des trucs comme ça, t'es pas obligé, mais en tout cas, c'est des trucs qui te permettent de
ça
mettre
met
un peu de
cerise dans les pattes.
Voilà, exactement. Il t'a détruit là.
Ah, le mec qui a sorti les violons et qui se le prend dans la gueule.
Non, mais très cool, très cool, très cool. Non, justement, parce que ouais, il y a, enfin, le rock aussi, c'est aussi cet esprit-là, tu sais, de rébellion, de machin, de trucs contre le système, gagner, enfin, c'est tout le décorum qu'on a l'habitude d'entendre. Mm-hmm. Et bah, se dire que ouais, ok, je suis rocker, mais en même temps, Renault, ça paye les pastas. Vas-y, let's go. Tu vois.
Mais en fait, ça a toujours été ça. Hein. Mm. Tu sais, les Beatles, ils habillent en Pierre Cardin, et tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Il y a un moment, en fait, c'est tu fais ton truc, tu y vas à fond. Faut jamais le faire pour ça, sinon on t'appellera pas. Ça, ouais. Tu peux être sûr que si tu te dis putain, si je fais une musique bien Saint-Laurent là, c'est ouais. Mort. Mais tu fais ton truc à fond, t'es radical dans ton truc, t'intéresses des gens, et après, c'est à toi de voir si tu veux faire partie de ça ou pas. Nous, c'est des questions qu'on se pose. Parce que d'un coup, tu fais partie d'un système, il y a des trucs qu'on a clairement refusé, tu vois. Mmh. Et il y a des trucs qu'on n'a pas refusé parce qu'on s'y retrouvait d'une façon ou d'une autre.
Oh, et Saint-Laurent, Hermès, c'est cool quand même.
Ouais, enfin, mais c'était cool aussi parce que c'était cool, comme tu le dis, et qu'après, nous, ça nous a permis une indépendance artistique forte sur la suite. Que si on n'avait pas fait ça, peut-être qu'on aurait été obligé de signer un deal différent et avec des gens qui auraient dû nous dire comment l'album y sonne, tu vois.
Mais ouais. Concrètement, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des endroits où il y a des rentrées d'argent qui permettent de financer le reste, quoi.
Voilà. En fait, c'est ça. Et après, exactement. En fait, c'est un truc comme ça, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus, parce que tu vois, si demain on te demande de faire une synchro pour un truc pour Tesla, tu vois, là, je dirais non.
Ouais.
Je le dis. J'espère que ça n'arrivera pas.
Et dans 3 ans, voilà. Clément,
il arrivera en modèle.
La nouvelle Tesla.
Non, mais Elon, il a changé.
Ah merde. Pourtant, je me souviens, il avait dit, on le ferait pas. Hein. Il a pris 500K, ouais.
Mais du coup, quand vous bossez pour des marques, c'est sous Kids Return ou...
Ça dépend, mais ouais, en fait, ouais, quand même, ouais. Souvent, ça dépend, tu vois. Mais un peu les deux trucs. On n'a pas trop fixé ce truc-là, en fait. Ouais. Quand, tu vois, ça dépend plutôt des gens, comment ils veulent annoncer le truc, tu vois.
Je crois qu'on a fait un bon tour, Daz.
Ouais, on a même parlé business à chaque fois.
C'est toujours par parler de moula, je suis sûr. C'est ouais. Tu dis, putain, pourquoi on a fini sur ça? C'est non, bizarre, c'est... alors que...
Non, on aime bien, c'est vrai aussi, ces discussions un peu, bah... Plus que, enfin, moi j'aime bien dire plutôt que business, métier, quoi. Parce que
bah, non, mais c'est sûr
métier,
que
tu vois,
c'est sûr que
quoi.
Bah, y a, ouais. C'est quand même en fait un truc. C'est vrai que
on n'a pas trop parlé de rock finalement. J'ai l'impression.
Non, mais c'est quand même, c'est vrai que c'est quand même un truc. Moi, je vois faire des disques, c'est vraiment galère quand même. Ouais. Et encore plus en indépendance, si t'as envie de te faire le truc de. Tu vois, si on t'aide pas, toi, j'ai l'impression que quand même t'as ce plan de studio. Mais tu vois, si d'un coup t'as pas de studio, que tu dois louer un truc, machin. Enfin, tu sais, c'est à panique, quoi.
Je loue le studio.
Oui, tu loues, mais genre, j'imagine que t'as, enfin, je sais pas, mais tu loues parce que t'as pu faire des trucs, t'es intermittent, machin, tu peux te louer ton studio et tout. Mais t'imagines quand t'arrives comme ça, que tu veux faire un disque, que tu vois les journées des prix parisiens de studio, où en fait c'est ton intermittence ta journée et t'es en mode genre, putain, mais comment je fais en fait pour faire mon truc? Faut être un tout petit peu des merdes, quoi. Et faut avoir de la chance un peu de faire les bonnes rencontres, c'est toujours pareil. Tout
ouais, c'est ça. Moi j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Moi c'est surtout la rencontre avec Marcus. Pour l'histoire, c'est Marcus, c'est le fils de la chanteuse de Magma. C'est un groupe légendaire des 70s. Et qui a en fait. Donc ils ont créé un studio au sous-sol de leur maison qu'ils ont acheté dans les années 80. Et donc ils ont créé ce studio. Marcus a récupéré ce studio. Et en fait, nous on s'est rencontrés. Il est venu me voir en concert avec mon ancien groupe et je sais pas, on s'est liés d'amitié, on a commencé à bosser ensemble. C'est lui qui avait produit le premier, mixé, etc. Et en fait, on s'est plus jamais quitté. Moi, j'ai commencé à ramener toutes les productions que je faisais chez lui. Et en fait, un jour, on est carrément devenu coloc parce que j'avais plus d'appart et je pouvais plus payer de loyer à Paris. Donc il m'a dit, bah écoute, viens à la maison, tu me donnes un loyer minime et genre voilà.
T'as sauvé la life.
Il m'a sauvé la vie,
en
vraiment.
Vrai,
et donc j'ai vécu un an et demi chez lui. Et en fait, bah petit à petit, j'ai continué à lui payer le loyer. Sauf que j'habitais plus chez lui et j'allais au studio. Et ça allait mieux, donc du coup je mettais plus de loyer, etc. Et le studio, c'est Grissy Studio d'ailleurs, je le dis comme ça, c'est on peut le situer. Et voilà, en fait maintenant c'est mon studio où je suis quasi tous les jours, quoi. Donc voilà,
c'est ma résidence, quoi.
C'est ma résidence, voilà. Ouais. Donc il a
c'est trop bien.
Tous les mois j'ai ce loyer, mais on a ce truc d'échange. De partenariat qui est au-delà du business, c'est fraternel, tu vois. C'est genre, c'est un accord de principe, c'est qu'en fait je fais des trucs chez lui et puis moi je le fais croquer sur les mix ou machin, ou tu vois, genre ça dépend, mais enfin en général on vend une espèce de package. Ce qui est trop cool, c'est qu'en fait le studio, il est au sous-sol, moi je fais toutes les prods là, donc il y a une grande pièce avec une batterie, etc. Je fais les prods et puis pout, ça part au-dessus, et lui il a son petit studio avec la lumière du jour, là où il mixe et il masterise, et donc du coup on fait tout Voilà. Quand on dit ça part en haut, c'est que ça part au mix, quoi. Et c'est assez cool, tu vois. C'est familial et on a fait plein de trucs comme ça. Genre Hana Jadagou, c'était ça. Il y a eu plein d'autres trucs qu'on a fait là-bas. Je me souviens plus.
Enfin, c'est du bien. Coup, sans cette rencontre-là, t'aurais pas exactement.
Ah ouais, non, c'est clair. Ce serait complètement différent. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça a été vase communicant. C'est que moi, ça a été. C'est le lieu où je peux m'exprimer et en fait avec les trucs que j'ai fait là-bas, lui, ça lui a apporté tellement de taf entre les artistes que j'ai envoyé vers lui et le rayonnement que certains projets que j'ai pu faire là-bas a eu. Il y a des gens qui l'appellent par rapport à, je sais pas, les premiers Albert Newton, ou à l'époque ça s'appelait Gustave. Il y a des gens qui kiffent ce son lo-fi, ou l'album de Cartel qui est beaucoup plus French Touch électro qu'on a fait là-bas, et où c'est lui qui a tout mixé.
Maintenant il y a Drug Dealer
derrière moi. Maintenant il y a Drug Dealer. Alors, c'est pas lui qui a mixé, mais c'est fait là-bas. J'ai fait les pré-prod de Clara Luciani là-bas, j'ai enregistré plein de trucs là-bas qui sont restés sur l'album. Enfin, Il y a plein de trucs comme ça, et en fait c'est ça qui est beau. Ça, c'est le bon côté du milieu de la musique. C'est en fait c'est les gens qui sont bien intentionnés et qui sont là pour l'amour du son et de la musique. C'est que c'est un peu ce qui se passe avec toi et Adrien, tu vois. C'est
pas grave.
C'est ce truc où en fait on partage et on il y a pas de contrat entre nous, tu vois, mais on sait que c'est comme ça qu'on avance. On avance ensemble, quoi. Ouais.
Ouais, il faut trouver les bons partenaires, quoi.
Ouais, ouais. Et puis ça, faut tout merde dans la vie, il y a toujours un truc de chance. T'as les gens qui ont, après la chance, du coup, bah, c'est aléatoire, et après t'as des gens qui ont un radar plus ou moins développé à la chance et aux rencontres, tu vois. Mais si t'as pas ça, putain, c'est chaud,
ouais,
quoi.
C'est la galère.
Ouais.
Bah, c'est en vrai, c'est pas mal comme mot de fin, ouais, de dire qu'on peut faire de belles rencontres. Il y a des gens qui
c'est beau.
En tout cas, la musique sert à ça. Tu peux rencontrer des belles personnes, quoi.
C'est vachement positif, le rock, en fait. Moi, et j'étais vraiment en mode, ils sont mélangés.
Mais le rock, c'est hyper c'est positif. Ça a toujours été très positif. Ça unit les gens, le rock. On en parlait tout à l'heure. Enfin, c'est quand même né. C'est un pari de fou, mais c'est né dans les années 50. C'est un mélange d'une Amérique hyper raciste, et c'est le mélange du rhythm and blues, qui est une musique afro-américaine, et de la country, qui est une musique de blanc, et c'est quelques personnes qui ont réussi à mélanger ça, à faire marcher ça, et donc ça a révélé plein de choses, et puis ça a tellement de styles de musique qui ont découlé du rock, rien que du, encore une fois, on en parlait tout à l'heure en off, mais l'arrivée du binaire proéminent dans ce style de musique, et de l'accent sur le 2 et le 4, enfin genre, c'est les fondations de la funk, c'est les fondations de l'électro, c'est
du rap.
Et du rap, de tous les styles qui ont suivi derrière. Et le rock n'est pas né tout seul, évidemment. C'est, comme j'ai dit, ça vient du rhythm and blues, de la country, mais aussi, des influences du blues tout court et du jazz, mais le blues c'était beaucoup plus en ternaire, etc. Mais c'est vraiment le côté binaire 2 et 4, c'est encore ce qu'on écoute aujourd'hui, et c'est le truc qui nous fait le plus kiffer, c'est le. C'est Billie Jean, enfin tu vois, genre
c'est littéralement Billie Jean.
Et c'est universel, en fait. Et je pense que rock and roll will never die.
On a une tradition dans ce podcast, c'est de terminer avec des recos musicales.
Mais oui.
Chacun, on file un morceau et on s'écoute un petit extrait d'un truc, soit que vous avez découvert récemment, soit un de vos classiques, un truc que vous avez envie de faire découvrer, en tout cas à nos auditeurs.
Tu peux prendre mon tel ou pas?
Ouais, bien sûr. On peut commencer. C'est vrai qu'on aurait dû vous prévenir. On peut commencer, nous, en attendant. Daz, éventuellement, t'en as un?
Yes, ouais. Alors, j'en ai plus qu'un, mais... Je vais rendre hommage à notre monteur.
Ah.
François.
Oui. Qui le mérite.
Parce que j'avais partagé un son hip-hop à l'esthétique très 80s.
OK.
Et il m'a dit, si tu kiffes ces ambiances-là, je te conseille cet artiste-là qui fait exactement ça. L'artiste en question, elle s'appelle Kendresa.
Ok.
Q-E-N-D-R-E-S-A. C'est une londonienne.
Ok.
D'origine kosovare, je crois.
Ok.
Et le morceau s'appelle Too Much.
Ok.
Et
c'est trop bien.
C'est tellement bien.
Bah écoute, Kendresa, je ne connais pas du tout. Too Much, c'est parti. I wanna
He asked me if I'm dressed for the vibe, but I don't want to for my buzz, come on. In interactions, I just can't let slide. No, I don't want to sabotage myself. You know them demons want to get inside, and every talk is just an ask for help. Every tear is just a blessing in disguise.
Patrice Rocheux,
c'est hyper bien cool. Smooth.
Ça, c'est. J'avais une playlist à l'époque qui s'appelait playlist Feu de cheminée.
Ah,
ouais, mais c'est ça. Hein. Mm. C'est les ambiances. Mais c'est très cool. Le premier album, c'est Midnight, Midnight Call, machin truc. Enfin, c'est vraiment les ambiances pour rouler en voiture la nuit quand il fait chaud.
C'est trop bien.
C'est super cool. Et elle passe en novembre.
Ok.
Putain, énorme.
À Paris, je sais plus dans quelle salle, mais voilà. Donc, okay. Je pense que je vais y aller. Merci François.
Les gars, vous avez Clément, Max.
Ouais. Vas-y, tu veux mettre.
Moi j'en ai un peu. Je sais pas, j'en ai un peu deux.
Il faut en mettre une la foutue. Voilà, t'es sur In Rainbows là.
Tu peux citer l'autre, mais on l'écoutera pas.
Bah, moi, okay. J'ai, juste parce que j'ai envie de voir qu'il est sur In Rainbows. J'ai mis ce live de In the Basement là.
Ouais.
Enfin, je l'ai maté la semaine dernière.
Incroyable.
Radiohead.
Radiohead toujours.
C'est ça que tu veux mettre ?
Non, c'était pas ça que je voulais mettre. J'hésitais entre Kiss Facility et Smerds.
Il faut que tu décides, t'es obligé une.
Bah écoute, vas-y, on va mettre Kiss Facility parce que c'est et des amis. En fait, c'est un projet entre Maya et Sega Bodega. Et c'est un titre qui vient de sortir qui est super. Le titre s'appelle Flesh Mix.
Ok.
C'est très indie shoegaze atmosphérique. Elle vient du Moyen-Orient. Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas vraiment où, mais elle chante en arabe. Et en fait, c'est un peu le son des femmes opprimées de là-bas. Donc elle est complètement libérée ici. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant et par ce qu'elle représente et soniquement. Voilà. Donc Flesh Mix de Kiss Facility. Et l'autre que je voulais mettre, c'était Smerz, Big City Life. Mais peut-être que les gens connaissent déjà un peu maintenant. C'est très cool.
Eh ben écoute, là on s'écoute Kiss Facility.
Que des filles, en tout cas.
Très bien, c'est parti, Flesh Mix.
C'est trop bien. Et je trouve c'est hyper intéressant d'entendre une langue comme l'arabe sur ce type de musique. C'est très rarement eu l'occasion d'entendre.
Les Cure qui se mettent à l'arabe.
Ouais, c'est ça, Cure et Cocteau Twins plus. Mais enfin ouais. Et ouais, c'est fou. Et tout le projet est trop bien. J'ai la chance de faire quelques drums pour eux.
Ok.
Pas celui-là, mais d'autres. Et c'est vraiment tout le projet. Vraiment trop cool. Donc je vous invite à écouter. Ouais.
Très bien, très cool. Clément.
Et moi, bah du coup, je voulais peut-être mettre un morceau d'un groupe qui s'appelle Galaxy 500, mais en fait,
vu que là on a mis un truc qui peut ne pas être super loin, je vais mettre autre chose.
Un truc un peu plus, ouais, ok.
C'est un groupe de Boston, j'adore Gaël Sanson, mais là je vais mettre un truc que Adrien m'a envoyé justement, que j'ai découvert, un groupe qui s'appelle The Apples in Stereo.
Ok.
Et le morceau qui s'appelle About Your Fame. Et c'est un. Si vous ne connaissez pas, et j'ai écouté l'album à fond et ça mérite d'être un peu plus connu. C'est chill par contre.
Ok.
C'est bien pour finir quoi.
Je ne connais pas du tout. Écoutons ça.
On est chill ici.
En 1997.
Tiens.
Je kiffe.
Je comprends pourquoi t'aimes bien.
Ouais, c'est très, très à l'image de ouais. C'est marrant, nos deux recos sont très.
On point, on dit.
Ouais.
Et toi alors?
Bah ouais, je vais terminer. Est-ce que vous avez. C'est un truc que j'ai découvert dans un film qui a très bien marché. Alors, vous avez vu Sinners?
Non, pas j'ai pas vu.
Oui, bien sûr.
Okay. Mais je l'ai pas vu en tout cas.
Et j'étais passé à côté. Enfin, j'étais passé à côté. J'ai vu que c'était sorti. Je m'étais dit que ça avait l'air pas très très bien. Et je me suis quand même regardé il y a pas très longtemps pour me dire bon.
Le film?
Ouais.
Oh non, il est cool.
Ne mourons pas con.
Ouais.
Et en fait, c'est pas mal. Alors, il y a plein de défauts. C'est pas un film réussi,
c'est
en vrai.
Une nuit en enfer, mais dans le bayou, quoi.
On peut dire ça. Ouais. Mais en fait, surtout, ce que j'aimais, c'est qu'il y a un vrai amour de la musique dans le film.
Ah,
ça, c'est,
oui.
Ça, c'est le truc vraiment réussi.
La scène transgénérationnelle.
C'est pas mal du tout.
Cool.
Le reste, je le trouve un peu plus branque-ballant. Mais l'amour de la musique, en tout cas, il transpire du film. Et tu vois ce film, Max? J'ai l'impression que ça te parle pas
comme ça me dit
avec
un truc.
Michael mais... B. Jordan qui joue deux frères. En fait, il joue.
Ouais, moi, je vois, mais je l'ai pas vu.
Ouais. Franchement, ça vaut le coup quand on aime la musique de le regarder. C'est pas un grand film, mais c'est pas inintéressant
non,
de traiter de la musique dans le
film. C'est un film qui est sur justement la communauté afro-américaine dans les années 30.
Et la place de la musique aussi dans ces communautés.
Voilà, et la culture qu'il y a autour de ça et tout. Et franchement, c'est un peu.
C'est un film du dimanche après-midi ou du mardi soir?
Ouais, mardi soir. Hein,
ouais, mardi soir.
Okay.
Ça reste quand même un film un peu grand public. Tu vois, il y a des vampires et tout. Tu vois, il y a des trucs un peu. Tu vois, c'est...
Donc okay. Ça, pour moi, c'est plus dimanche après-midi.
Oui, ah ouais, c'est le dimanche après-midi. Ouais. Ok. Je sais pas, moi.
Mardi soir, c'est plus sérieux, c'est genre.
Ouais, ah ouais, okay. Ah non, bah alors dimanche après, okay.
Dimanche après, c'était Walker Texas Ranger, moi. Remarque.
Après, on est pas très loin. Ouais. Bref, il y a plein de morceaux. Et sur la BO, d'ailleurs, je crois que c'est notre ami. Non, j'ai une connerie, c'est pas Ludwig Göransson? Non.
Si
c'est ça, hein, ouais.
Ah ouais?
Bah, qui est évidemment un musicien exceptionnel. Et donc, il y a plein de trucs très différents. Ils ont repris aussi un peu des grands standards, etc. Dont un morceau qui est une musique irlandaise. Qui en fait est pas un standard, c'est pas historique, c'est un morceau relativement moderne de musique irlandaise, mais j'adore ce morceau, je l'ai découvert, qui s'appelle Will You Go, Let's Go. Et ça a bercé une partie de mon été, donc on s'écoute ça.
Allez.
La version de Sinners, mais il y a plein d'autres versions géniales disponibles partout.
12 cordes.
Et l'Irlande direct.
Ouais.
Oh, the summer time has come, and the trees are sweetly blooming. The wild mountain thyme grows around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to the wild. Around the blooming heather, will you go?
I will build my love tower by an cool and crystal fountain, and on it I will pile all the flowers of the mountain. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to blow wild mountain time all around the blooming heather.
Très très chill là.
Will you go,
chill max là.
C'est pour s'endormir un peu.
Ouais, ça fait un peu.
Après, moi j'adore, moi ça me touche énormément ce genre de truc. Il y a un truc qui est dans cette musique qui est tellement solennel et en même temps qui est presque religieux, je sais pas. Alors, comme toi, hein, je suis pas religieux, mais moi c'est.
Mais ça c'est pas chanté par les vampires dans le film.
Mais ouais, mais tu sais quand t'écoutes ce genre de truc, t'as l'impression que c'est. On te dit. Ça va aller, c'est la fin du film, mais il y en aura peut-être un, il y en aura un autre après. Peut-être. Carrément, il y en aura un autre après. Ou la vie continue après le film, tu vois. Et, enfin, je sais pas. Moi, je suis un immense fan de Bon Iver. Et,
ah bah, moi aussi.
Et en fait, il y a, dans sa musique, il y a ses racines de folk tradis, carrément, tu vois, de, tu sens pas que de la folk américaine dans ce qu'il fait, tu vois. Il y a carrément la je trouve, de la folk irlandaise, en tout cas celtique, dans ce qu'il fait. Et je sais pas, il y a une espèce de chose qui m'élève un tout petit peu, genre quelques centimètres au-dessus du sol, quand j'écoute ce genre de musique, et ça me touche à chaque fois énormément.
Je précise d'ailleurs, pour être tout à fait juste, que le groupe qui a composé le morceau, The Corrs, c'est des Écossais. D'ailleurs, je précise.
Ah bon?
Ouais.
Oh là!
C'est qui?
Toute la théorie du
The Corrs.
Ok, c'est un énorme classique, ce morceau. C'est
Ah oui, oui, oui. Ok, il était repris par plein de gens, y compris Van Morrison, par exemple.
Oui, c'est ça.
Okay. Il y a plein de, voilà, plein de versions.
Ouais. Ok.
Mais contrairement à ce que j'imaginais quand j'ai découvert, je pensais que c'était vraiment un classique, genre, tu sais, qu'il y a plusieurs siècles. Ouais. En fait, pas du tout. C'est vraiment, c'est le 20e siècle, tu vois. Mais
années 60,
ouais. C'est trop beau. Trop beau. Bravo. Voilà. Bon morceau de fin.
Et je vous conseille, franchement, le film, il y a des scènes musicales. Vraiment, c'est ce qui est le mieux réussi. Okay. Genre là, tu vois, c'est les vampires, c'est les méchants qui à un moment se mettent à chanter.
Mais il y a des vampires.
Ouais, c'est un délire.
C'est quoi ce film?
En fait,
non,
c'est un délire. Une métaphore un peu subtile sur les vampires sont blancs et mais ils viennent s'approprier.
C'est plus compliqué.
Est-ce que les vampires, c'est seulement l'industrie de la musique?
Ouais, un peu. En fait, tu peux le prendre dans tous les sens possibles.
C'est un tout petit peu. J'ai lu des analyses et tout. C'est un tout petit peu plus subtil que ça parce que c'est des immigrés aussi eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils chantent ça, les vampires. Enfin, il y a un truc un peu complexe. Bref. Le film est intéressant.
En gros,
c'est quoi, je vais rentrer, je vais aller voir là.
Pendant la prohibition, deux frères qui décident de faire une soirée avec de l'alcool qu'ils ont skimé à Chicago. Tu comprends qu'il y a un frère qui bosse avec la mafia en fait et qui revient dans son bled. Et donc ils vont faire une grande soirée. Et à un moment donné, dans cette soirée, il y a des blancs qui veulent rentrer, alors qu'ils sont clairement pas les bienvenus parce que c'est un truc culturel, machin, etc. De très communautaire. Et il s'avère que c'est les blancs qui vampirisent, machin. Enfin voilà, il y a deux
mais petites, c'est-à-dire parce que t'as les vampires blancs, c'est vrai, mais t'as aussi les vrais fachos, c'est-à-dire que t'as le Ku Klux Klan qui
et le Ku Klux Klan aussi.
Et les vampires sont pas exactement, tu vois, c'est pas
ils sont entre les deux.
C'est complexe. Et c'est alors que c'est un blockbuster. C'est le mec qui a fait par exemple les.
C'est entre True Blood et House of Cards, on dirait.
Ouais, c'est exactement ça. C'est le mec qui a fait les Wakanda et compagnie.
C'est Ryan Coogler, ouais, qui a fait Black Panther.
Black Panther,
qui est quand même très. C'est des films horribles, tu vois, je trouve, les Black Panther.
C'est mainstream quoi.
Le premier
non,
cool.
c'est j'aime bien les films mainstream.
Non, mais c'est mainstream, films... mainstream.
Oui, mais c'est mainstream, mais avec.
Mainstream
chose...
raté quoi.
Ouais, voilà. Exactement.
Non, franchement, Black Panther, c'est aussi de l'empowerment pour toute une population qui a enfin
ouais, mais
pu
ça fait
avoir
pas un bon film.
Des rôles modèles qui concernent leur.
Ça aurait été mieux avec un bon film, tu vois. C'est pas Spike Lee quoi.
Ouais. Ça se discute.
Je trouve que le film est vraiment pas réussi. Mais là, Sinners, en l'occurrence, je trouve que dans la représentation, donc ce qui est plus intéressant déjà.
La culture de l'Amérique profonde, de la culture afro-américaine et tout machin. Enfin, c'est là, t'es sur un film où tu te dis. De base, c'est pas ça qui. C'est pas un blockbuster normalement.
Ouais, tout à fait.
Ce genre d'histoire.
Parce qu'il a fait les cris des compagnies à côté. Et donc en fait, il a eu tellement d'argent qu'on lui avait dit, vas-y.
Il y a Michael Jordan.
Confiance, tu vois, vas-y, fais ton film. Ouais. Et on verra bien.
Bref. Non, moi j'ai trouvé ça chouette divertissement. Franchement, très cool.
Bon, ça s'est terminé, un podcast cinéma.
Incroyable. Incroyable.
Il ne reste plus qu'à vous remercier, Max Baby.
Merci à vous les gars.
Clément
merci.
De Kids Return.
Merci, c'était cool. C'était vraiment cool. Un bon moment. Ça fait plaisir de passer des moments comme ça. Ça change un peu. C'est cool.
Tu en auras de vous rien de pour parler d'autres trucs aussi.
Bah ouais. Ouais,
non, maintenant, c'est ce qu'on dit aux gens. Hey, on va vous réinviter là pour parler d'autres sujets.
Après, si on réinvite tout le monde, on part pour 10 ans d'émission. Bah,
t'as quelque gros. Chose de prévu, toi non.
Bah, écoute,
dis-nous la vérité. On ne se reverra plus jamais, mec.
Si, non, ça va. Non, regarde. On croise les gens tout le temps.
Ne serait-ce que. Ça, par contre, c'est un vrai truc. Tous les invités sont invités à revenir à des émissions pour boire un coup après, assister à l'émission s'il y a des invités qui se trouvent cool, je sais pas quoi. Ça, ouais,
ça, trop bien.
Ça, ah, trop cool. Ouais. Avec grand plaisir.
Oui, vous avez ça, bien le pass, sûr. Vous avez le pass.
Exactement. Un grand merci. Bah, merci Daz.
Merci Salman.
Avec plaisir. Merci à la bouclette pour la technique. Flav, aujourd'hui, et qui était aussi accompagné. Rappelle-moi.
Alexis.
Qui est nouveau et oui. qui sera régulièrement sur l'émission. Donc, bienvenue, Alexis.
Il est là encore
Je crois. Hein. Et oui, absolument.
Il est là encore.
Merci à François, évidemment, à la fois pour la reco et pour le montage.
François, le best. Hein. La merci. Prochaine reco, ça sera du Enya. Je te promets.
C'est un grand fan d'Enya, François. Mm-hmm. Merci aussi à Thoman, évidemment, bien grâce sûr. À qui on fait cette émission. Bon, je vous pose pas la question. Ça vous arrive d'acheter chez Thoman ?
Bah ouais.
Oui.
Grave. Grave. J'ai acheté en plus 12 XLR. Hein, donc c'est. Ah, c'est si m'entendent, je suis chaud qu'à moitié pris sur les 6.
C'est
je sais pas.
Un XLR. Très bien. Le mec, s'il veut pas un synthé, il veut du XLR. Tu vois, bref. Donc merci beaucoup, Thoman. Merci à vous surtout de nous suivre. On revient dans 15 jours.
Pour la centième. Ouh.
Pour la centième. Ce sera habituellement du jour, ce sera bien. Bah là, ce sera très très bien. Non, je sais pas, en plus, on sait même pas qui l'invite encore.
Je sais même pas.
Mais ça va être bien, c'est
ça
sûr.
Ça sera cool.
Allez, ciao.